T'es déjà à moi là? Attendez, bougez pas. J'arrive, je suis en train de terminer un truc, je suis en train d'actualiser ma commande point d'exclamation samedi, je suis en train de la modifier, la compléter un petit peu pour expliquer ce nouveau rendez-vous du samedi. Voilà. Je suis trop long. Rendez-vous du lundi au vendredi. Ouais. Bon. Je suis en train de vous faire ça. Faut que je la réduise. J'ai fait trop long. Ok. Parce que, en fait, je vous explique. Non, je vais vous expliquer dans un instant. Alors. Parce qu'en fait, donc c'est un nouveau rendez-vous. Donc je vous rappelle le contexte pour ceux qui l'ignorent, parce que certains l'ignorent manifestement dans le chat. Moi, ça fait 5 ans que je fais une revue de presse sur Twitch. Bonjour à tous d'abord et bonne année à ceux que j'ai pas croisés depuis le nouvel an. Ça fait 5 ans. Que tous les matins du lundi au vendredi pendant en général 3 heures, je vous parle d'actualité, je vous fais une grande revue de presse, je vous parle de la marche du monde, de l'état de notre pays, de notre société, de la planète, et en général c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Voilà. Et donc ça fait des années que les gens me disent « ouais c'est ça, mais c'est sympa, c'est bien l'actu, ok d'accord, tu nous dis ce qui ne va pas dans le monde et c'est bien parce que c'est en prenant conscience de ce qui ne va pas que peut-être un jour on sera en capacité de le changer. » Ok. Mais vous me dites, est-ce que tu pourrais de temps en temps nous parler aussi de bonnes nouvelles? Je vous dis, oui, mais bon, bon, flemme. Sauf que l'idée a mûri, et je me suis dit, ok, on va faire un rendez-vous à part. On va faire un rendez-vous à part le samedi après-midi, après avoir bien donné toutes les mauvaises nouvelles, les crimes, les drames, les crises, les guerres, les conflits, les plans sociaux du lundi au vendredi, tous les jours de la semaine, eh bien, le samedi, on fera une petite pause, le samedi après-midi, un peu de chill, et je ne vous donnerai que des... Alors, que toujours que des informations, mais que des bonnes nouvelles. Voilà. Donc, du coup, je suis en train de corriger. Mais évidemment, comme toujours, puisqu'on est sur les réseaux sociaux... Il y a tous ceux qui me l'ont demandé, puis il y a tous ceux qui commencent à râler. Ah oui, mais non, mais c'est pas possible aujourd'hui, le Venezuela, comment, mais enfin, bon, l'ironie qu'on aime lire sur le réseau du chétan qui s'appelle X. Du coup, je suis en train de corriger mon bot. Mon bot qui disait bienvenue dans Samedi des bonnes nouvelles. Jeu de mots de fou. Samedi des bonnes nouvelles. Le samedi. Voilà. De la commu, hein, bien sûr. Hein. Tous les titres d'émission ici sont trouvés par la communauté. Personne ne peut battre ces milliers de cerveaux aiguisés, acérés. Donc, le bot disait « Bienvenue dans Sam dit des bonnes nouvelles. 5 ans que je vous propose une revue de presse sur Twitch. 5 ans. La matinée Étienne, dans laquelle je vous rapporte hélas beaucoup de mauvaises nouvelles. Hein, c'est en général, l'information, c'est ça, qui émaille la marche du monde. Alors, pour contrebalancer un petit peu et continuer d'espérer dans le genre humain, quand même, un petit peu, sinon on va tous se tirer une balle, chaque samedi après-midi, et uniquement le samedi après-midi, je vous propose une revue de presse des bonnes nouvelles. C'est ce qu'on va faire cet après-midi. Voilà. King Julian dit, je sais pas comment tu fais pour rester sur X, j'ai regardé les commentaires sous tes posts, c'est du véritable harcèlement force à toi. Mais je m'en balais, King Julian, d'une puissance, je suis tellement... Les gens qui perdent leur vie me dire ce qu'ils pensent de moi, ça m'en touche une sans bouger l'autre, comme disait l'ancien président Jacques Chirac. Non, mais vraiment, ça, faites-vous plaisir. Franchement, je m'en fous. Et donc, je suis en train de rajouter une phrase, puisque déjà, ça râle. Attends, déjà, ça a râlé pendant 5 ans parce que je n'avais pas de mauvaises nouvelles. Et là, j'annonce... Je n'ai pas commencé ce rendez-vous déjà, que déjà, certains, on vous a vu dans le chat, ah oui, mais non, non, ah comment les bonnes nouvelles, et le Venezuela, voilà. Bon, on vous connaît. Voilà. Et du coup, je suis en train de rajouter, et pour ceux qui tiennent vraiment aux mauvaises nouvelles, bah, c'est aux catastrophes, aux drames, aux crises, rendez-vous du lundi au vendredi sur ma chaîne, ce que je fais depuis 5 ans. Mais il n'est pas sûr que ceux qui écrivent ça dans le chat soient des habitués de cette matinée Étienne que je présente depuis 5 ans. Mais ça, je dis ça, je dis rien. Sauf que c'est trop long. Donc, je suis en train de corriger ça, quoi. Je suis à combien de caractères là? Je suis beaucoup trop long. Ah ouais, ouais. Ah, c'est trop long. Oui, le Venezuela sera toujours le lundi, enfin, on espère. Voilà. Puis on va en parler lundi, puis on va en parler mardi, puis mercredi. Peut-être même que je vous ferai une revue de presse demain matin. Sur le Venezuela, c'est pas impossible. Non. Alors, donc je suis en train de raccourcir. Je coupe. Hein. Une nouvelle émission, ça me déprime et prévu? Ben oui, c'est tous les matins, en semaine, du lundi au vendredi. Je t'entends raccourcir. On sera bien là. Raccourcir, raccourcir. J'aime pas raccourcir. L'avantage de Twitch, c'est qu'on prend le temps, justement. Ah, c'est bon. Alors, voilà, nouveau texte du bot point d'exclamation samedi que je vais actualiser dans un instant. C'est aussi le concept de ce nouveau rendez-vous que je vais essayer de vous proposer tous les samedis, ce qui nous fera 6 revues de presse par semaine. Lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin. Et puis le samedi, un pas de côté et totalement artificiellement, on fera un focus sur les initiatives sympas, sur les raisons d'espérer, sur ce que peuvent faire les ONG, ce que les inventions, je sais pas, les avancées scientifiques, etc. Et puis pour ceux qui voudront leur dose de mauvaises nouvelles, eh bien il suffira d'attendre le lundi. Alors, donc le bot dit, bienvenue dans Sam dit des bonnes nouvelles. 5 ans que je vous propose une revue de presse sur Twitch, la matinée étienne dans laquelle je vous rapporte, hélas, hélas, beaucoup de mauvaises nouvelles qui émaillent la marche du monde. Alors pour contrebalancer un peu et continuer d'espérer dans le genre humain, chaque samedi, je vous propose une revue de presse des bonnes nouvelles. Et pour ceux qui tiennent vraiment aux mauvaises nouvelles, rendez-vous du lundi au vendredi sur ma chaîne. C'est pas mal ça? Update. Hop, je le mets en haut. Et donc, amis de la communauté, amis qui vous connaissez ce qu'on fait ici, amis Modo notamment, quand vont pop dans le chat, parce que on sait comment ça fonctionne pour fréquenter ces univers assez de façon intensive, quand vont pop dans le chat, à partir de maintenant et pendant 3 heures, tous les messages en mode quoi? Une revue de presse des bonnes nouvelles? Quand on voit l'état du monde, hein, alors quand on voit ce qui se passe même là en ce moment au Venezuela, mais quel scandale! Mais je vais vous dénoncer, monsieur Étienne! À qui? Je ne sais pas. À ta grand-mère, à ta tante, à ton cousin, je ne sais pas. Donc, vous irez, vous leur ferez un point d'exclamation samedi, et vous leur direz, mon chouchou, toi qui sans doute en plus n'es pas un habitué de la matinée Étienne, viens lundi, tu auras ta dose. Ok? On fait ça? Non, en plus, c'est une idée de la commu, ça. Moi, je suis pas très bonne nouvelle. Moi, j'aime bien vous miner le moral, personnellement. Comment ça va, vous, d'ailleurs? Des enfants biberonnés à BFM TV, CNews, c'est bien le problème. Comment ça? Une revue de presse, des bonnes nouvelles, alors que mon hamster a la grippe? Merci, quoi, l'absurde. Merci, Reddick. Comment se passe le début d'année pour vous? Ça va, le Lucky 13? Merci d'être aussi nombreux. Alors, est-ce que tu vas parler de la tragédie de Crans Montana, me dit l'ex-77. J'en ai parlé, bien sûr, cette semaine, dans la matinée Étienne. Tu as tout en replay, mon ami, sur ma chaîne Twitch si tu es abonné, sur ma chaîne YouTube si tu ne l'es pas, et tu as tout en podcast audio également sur toutes les plateformes de podcast. Donc ça, Crans Montana, ce drame monstrueux, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai sans doute aussi lundi, sinon pour aujourd'hui, point d'exclamation, samedi, dans le chat. Alors le modo, vous allez avoir un taf de fou aujourd'hui. Comment ça, voiture HS, mais on garde le sourire. Oh, le furet glacé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de train de hype? Merci Kratos. Merci Kratos pour le 10e mois. Merci Captain Oui, j'espère que tu vas bien et on est très heureux de t'avoir avec nous. Merci pour le 53e mois d'abonnement. Merci Sido775. Comment vas-tu Sido? 52 mois d'abonnement. Merci Nukia pour le 5e mois. Merci Tortue HS pour le 6e mois. Merci Dava pour le 18e mois. Merci Draco. Tu es là, Draco. Merci pour ce 20e mois. Merci Grégorio. Merci Swazik, merci Arnaud. Je comprends maintenant le train de l'hype. Ok, d'accord. Merci à tous. Merci Noctali pour ses 5 abonnements offerts à la commu. Mais les meilleures joueuses Valo au monde. Erendil, bon, tiens, vous voyez, ça n'a pas commencé que déjà les bonnes nouvelles affluent dans le chat. Ça arrive. Où est-ce que tu es? Erendil, ça s'occupe d'un chat rescapé dans l'attente d'un placement en famille d'accueil. Bravo à toi. Bravo à toi. Est-ce que tu cherches les bonnes nouvelles dans les journaux habituels ou partout? Non, je cherche les bonnes nouvelles dans les journaux que j'aime lire. Hein, vous savez, les quotidiens nationaux. Bien sûr qu'il y a un petit sommaire. Il arrive le petit sommaire, je vais vous le mettre. Bien sûr. que wa, écrit Plop dans le chat, mais que wa, quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, quand on lit ce qu'on lit, on est bien obligé de penser ce qu'on pense. C'était pas Coluche qui disait ça, c'était qui déjà? Salut Beginner, à bientôt. J'ai rêvé d'un caillou qui tirait des lasers, mais je vous jure que tout va bien. Ah oui, Sugar. Petit clin d'œil de l'ami Sugar, un petit live, tout modeste, la nuit dernière, stream lancé vers 22h30. C'était Coluche qui disait ça, c'est ça? Stream lancé à 22h30, un stream lancé à 22h30 sur l'excellent jeu God of War. Forcément, on se dit que ça va se terminer tôt, hein, à l'âge avancé du streamer ici. Finalement, on a fait plus de 7 heures de live et qu'on a coupé vers 5h, 5h30 du matin. Ouais, je crois que j'ai quasiment croisé la famille ce matin. Ouais. Oui, 7 heures de live sur God of War. Ce jeu est incroyable. Ce jeu est incroyable. Ce jeu est magnifique. Oui, oui. Du coup, il s'est terminé tôt le matin, quoi. Ouais. Et il y avait des courageux qui m'ont accompagné toute la nuit, quoi. Qui m'ont accompagné toute la nuit pendant 7 heures. Voilà. Le chat était un peu apaisé à la fin, un peu calme. Ça n'écrivait plus beaucoup. Les gens étaient là, mais ça n'écrivait plus beaucoup. Je pense que certains se sont endormis sur le clavier. Je pense que certains ont du AZERTY sur le front ou sur la joue. Voilà. Je demandais des conseils parce que je demande beaucoup de backseat, moi, quand je joue. Voilà. Il n'y avait plus beaucoup de conseils à la fin. Ça s'était un peu calmé, quoi. C'était drôle. Mais c'était trop chou, là. L'ambiance était top. Ce jeu est incroyable. Je n'ai qu'une hâte, c'est de relancer God of War. Je sais pas, peut-être ce soir, avec la permission de la famille, quoi. C'était vraiment bien. Et puis on n'oublie pas Skyrim et on n'oublie pas Valo, bien sûr, mais là j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jeu que la communauté m'a proposé il y a quelques jours. J'étais à la recherche d'un nouveau jeu, on est allé voir des trailers sur Steam et là je me dis waouh, mais quel est ce jeu? Et alors les graphismes, la musique, le lore, les aventures, les petites énigmes et la hache dans la gueule des ennemis. J'ai terminé à 5h30, ouais. Comment t'arrives à la fois à streamer une à deux fois par jour, à gérer ta vie de famille et gérer ta vie de couple et travailler sur d'autres choses à côté comme tu es? Ah, Marceau, très bonne question. Voilà. On va chercher du temps là où le temps est trouvable, quoi. Donc j'ai un sommeil réduit. Je fais quasiment plus de sport, alors que j'ai fait énormément de sport à une époque. Voilà, ça, c'est pas très très bien, mais bon. On peut pas tout faire, quoi. Faut faire des choix. Voilà. Samuel Gamer à temps plein et journaliste à ses heures perdues. Ça joue un petit peu. Bon, en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Je cherchais mon café. Et puis, on va lancer cette revue de presse nouvelle formule du samedi, hein, le Sam dit des bonnes nouvelles. Et pour ça, il faut un café. Ah, je suis trop content. Et comme toutes les bonnes idées que j'ai eues ici, depuis 5 ans que je suis sur Twitch, une idée de la communauté. Allez, on y va. Je vais le faire bien propre pour que ceux qui nous écoutent en replay, notamment en podcast audio, puisque depuis la rentrée, toutes ces revues de presse sont en podcast audio tous les jours à partir de 15-16 heures, postées par le bon ami Vincent sur toutes les plateformes de podcast. Je vous fais une intro toujours super propre en vous annonçant le sommaire. Hop, le sommaire, il est là. C'est parti. Allez. Bonjour. Let's go. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur ma chaîne Twitch qu'on pourra retrouver sur YouTube également et en podcast audio de partout. Tous les samedis après-midi, désormais, un nouveau rendez-vous avec un excellent jeu de mots. On est samedi. Alors c'est Sam c'est moi. Sam dit quoi? Des bonnes nouvelles. Ne me félicitez pas pour ce jeu de mots incroyable, ce titre glorieux, lumineux, incandescent, c'est la communauté qui l'a trouvé. Hein. Sam dit des bonnes nouvelles, comme la communauté elle-même a trouvé cette idée de stream. Je vous explique le concept, c'est très simple. Point d'exclamation samedi, comme le jour de la semaine, dans le chat, et vous aurez les explications. Ça fait 5 ans. 5 ans que je vous tartine tous les matins, du lundi au vendredi, pendant de longues heures, de mauvaises nouvelles. Parce que l'actualité, c'est ça. Non, samedi sans S. L'actualité, c'est ça. L'actualité, c'est ce qui ne va pas dans notre monde pour que nous, citoyens éclairés, ayons les clés peut-être d'être en capacité de changer ces choses qui ne vont pas. Donc, les journalistes, les médias vous rapportent énormément de drames, de catastrophes, de crises, hein, de guerres. Et vous inquiétez pas, ceux qui sont accro à tout ça, on reprend lundi. 5 ans que je fais ça tous les matins pendant des heures. Voilà. Sauf que ce faisant, ça fait des années que certains me disent « Mais tu pourrais pas nous faire aussi une revue de presse des bonnes nouvelles ?» Parce qu'il y en a des bonnes nouvelles, et c'est vrai. Et il y en a des bonnes nouvelles, vous avez raison. Et sauf que moi j'étais un peu sceptique parce que en 30 ans d'activité médiatique, j'avais vu des initiatives de ce type. Notamment à la télé, des médias qui voulaient justement être des médias de bonnes nouvelles. Je me rappelle une émission sur Canal+, qui s'appelait « Le journal des bonnes nouvelles ». Et ça avait été une catastrophe, un flop. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment les mauvaises nouvelles, ils aiment les drames. C'est ce qui fait de l'audience. Hein. Et un journal des bonnes nouvelles, ça n'avait pas trop séduit. Donc, j'étais pas super hypé par ça. Et en même temps, je me dis, quand je vois les quantités de mauvaises nouvelles que je vous rapporte, moi, j'ai une petite responsabilité. Voilà, je ne veux pas trop vous miner le moral. Et ok, d'accord. Tous les samedis après-midi, à partir de ce samedi 3 janvier 2026, ça tombe bien, c'est une nouvelle année, tous les samedis après-midi, 14h-17h en gros, je vais vous rapporter les bonnes nouvelles, selon moi, c'est très subjectif, les nouvelles positives, les nouvelles porteuses potentiellement d'espoir que j'aurai glanées dans la lecture des journaux tout au long de la semaine. Donc, comme d'habitude, Le Parisien, Libération, Le Figaro, Le Monde, La Croix, L'Humanité, Les Échos, L'Opinion, L'Équipe, je crois que je n'oublie personne. Voilà. Donc, je fais ça. Donc, toute cette semaine, en lisant les journaux, quand il y avait une actu un peu sympa comme ça, il y a celle que je vous donnais dans la revue de presse, on ne va pas oublier les quelques bonnes nouvelles qu'il y a de temps en temps dans l'actualité quand même, bah quand je voyais une nouvelle comme ça qui pouvait s'inscrire dans ce concept d'un samedi des bonnes nouvelles, je la mettais de côté et ça donne ce sommaire que je vais vous lire. En tout cas, merci d'être là, merci d'être aussi nombreux pour la revue de presse. La revue de presse classique, elle continue du lundi au vendredi, bien sûr. Voilà. Merci d'être là en direct sur Twitch. Vous avez à J+1 cette revue de presse sur YouTube gratuitement pour ceux qui ne sont pas abonnés sur Twitch. Et depuis la rentrée, on est très heureux. Vous nous retrouvez tous les jours à partir de 15-16h en podcast audio. La revue de presse du matin est en podcast audio. Celle qu'on fait cet après-midi, elle va être en podcast, je pense, ce soir. Sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Alors, quel est le menu ? Quelles sont ces nouvelles ? Quelles sont ces nouvelles ? Alors, je vous allez voir, c'est très subjectif parce que les bonnes nouvelles des uns ne sont pas forcément les bonnes nouvelles des autres. De même que ma revue de presse du lundi au vendredi, elle est subjective. Je choisis certaines informations au détriment de d'autres. Je ne vous parle pas de toutes les infos parce que ce sont les infos qui m'intéressent. C'est subjectif. Je ne consomme pas tous les médias. Moi, je lis essentiellement la presse écrite. Je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio. Ça aussi, c'est très subjectif. Donc, ce sont des choix que je partage avec vous. Mais ils sont parfois pertinents, parfois ils sont claqués au sol. Voilà mes choix dans ce que j'ai estimé être des bonnes nouvelles cette semaine. La première bonne nouvelle, hop, c'est celle-ci. C'est la une de Libération de mercredi dernier. Un Libé spécial, Libé des solutions d'ailleurs, parce que Libé est aussi un journal qui de temps en temps essaye de proposer des bonnes nouvelles dans une édition spéciale de Libération qui s'appelle le Libé, le Libération des solutions, pas des problèmes mais des solutions, et notamment une histoire de train, de petit train, hein. Libération qui nous rappelle, c'est le principal dossier de une de Libé de mercredi 31 décembre, que il y a différents acteurs en France qui sont en train de réfléchir à la mise en service de petits trains, de tout petits trains, hein, pour améliorer le maillage et sortir, vous savez, d'années d'investissement en tout TGV. Ouais. Avec Télie et Drézy, deux équipements électriques et légers, donc électriques en plus, la SNCF et les régions pourraient renforcer ou rouvrir des dessertes qui n'avaient plus vu passer de train depuis longtemps, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, une reconquête des mobilités locales comme une revanche sur le tout TGV. Pour ceux qui s'intéressent aux questions de mobilité en France, de transport, hein, et qui savent que le train est un outil incroyable à la fois pour rapprocher les gens, mais le faire aussi de façon écologique, puisque en termes d'émissions de CO2, en France, c'est le meilleur des moyens de transport, eh bien, il y a des initiatives, des réflexions qui sont en cours. On verra de quoi il retourne. Premier sujet. Deuxième sujet, environnement toujours, un hasard de l'actualité, c'est la une de La Croix de mercredi également, transmettre un monde durable. La Croix qui constate que ce sont les enfants, en tout cas les jeunes, qui seront en première ligne pour assumer le monde de demain, et qui constate que la famille en France, je suis dans le sommaire, je vais assez vite, est un espace de sensibilisation à l'écologie. Voilà. L'environnement, on en parle où ? On en parle à la télé, on en parle sur les chaînes d'info en continu, les politiques nous en parlent. Mais l'environnement, l'écologie, le souci de la planète au quotidien, on en parle aussi beaucoup en famille. Consommation de viande, voyage en avion, on parle de voyage en train à l'instant, consumérisme ou sobriété. La question écologique s'invite bien souvent jusqu'au cœur des foyers, parfois conflictuels. Les discussions peuvent aussi être le terreau d'un apprentissage réciproque. Voilà. Une revue de presse des bonnes nouvelles, c'est pas des infos légères, c'est pas des petites histoires, des petites blagounettes, des petits machins. C'est parfois ça peut être aussi des tendances de fond. Je trouve que ce dossier de La Croix est hyper intéressant. Transport toujours et environnement toujours, mais plutôt transport. Dans La Croix, lundi 29 décembre, j'ai trouvé une initiative à Rennes où ils ont pris un peu d'avance sur un truc qui devra concerner toutes les villes de France d'ici le 31 décembre 2026, et je trouve ça positif. Toutes les villes de France d'ici le 31 décembre 2026, et Rennes a pris un peu d'avance, devront avoir supprimé les places de stationnement situées à moins de 5 mètres des passages piétons, pour des raisons de sécurité, pour qu'aucun véhicule ne cache, si j'ai bien compris l'article, la vue des piétons, des véhicules arrivant sur les voies de circulation. Voilà, donc c'est une mesure de sécurité. Il se trouve que Rennes a pris un peu d'avance en la matière. Je trouve ça plutôt sympa. Encore une info que je trouve positive. Alors, transport, oui et non. Michelin, ils font des pneus. Donc ça, c'est une information que je vous ai mis de côté cette semaine. Michelin, donc énorme entreprise, a rendu de l'argent à l'État. Ouais. Là, j'ai un article dans La Croix. Michelin a restitué à l'État des aides sujettes à polémique. Vous savez, on a beaucoup parlé des aides aux entreprises françaises, notamment aux grosses entreprises. Voilà. Et des montants faramineux que ça pouvait atteindre. Il y a des gros débats là-dessus. Voilà. Et le problème, d'après ce que je comprends, c'est que ces aides ne sont le plus souvent soumises à aucun contrôle, aucune condition. Et là, par exemple, Michelin, de sa propre initiative, sans obligation légale, a fait un chèque de 4,3 millions d'euros à l'État pour rembourser un crédit d'impôt destiné à une usine française qui, depuis, a fermé. Un geste inhabituel. Comprenez que la plupart du temps, les entreprises gardent l'argent même quand elles ne devraient pas quand elles ne l'ont pas mérité. Un geste inhabituel, donc, écrit La Croix, qui s'inscrit dans un contexte de remise en cause des aides publiques accordées aux entreprises. Ça nous emmène, en fait, cette histoire de Michelin aussi, sur une réflexion plus globale sur est-ce qu'on ne devrait pas mieux contrôler l'argent, les aides données aux entreprises. Et l'Humanité s'en félicite dans un édito, Regonfler la loi, édito dans l'UMA de cette semaine de Laurent Mouloud. C'est intéressant, hein ? Bon, ça, c'est un truc, hein, c'est une de mes marottes. L'ancien fêtard breton un peu alcoolo que vous connaissez tous au nom de Samuel Etienne a viré sa cutie, il a pris en âge, il a pris en sagesse aussi. Voilà. Et je ne bois plus. Et j'ai découvert assez tard d'ailleurs qu'on pouvait faire la fête sans alcool. Heureusement, d'autres l'ont constaté avant moi, et on a un dossier du Parisien sur la fête est plus folle sans alcool, avec ce constat, à l'occasion du Dry January, mais pas seulement, de plus en plus de jeunes ne se reconnaissent pas dans les clichés festifs liés aux boissons alcoolisées. Alors moi, je peux en parler en connaissance de cause, j'ai beaucoup pratiqué, voilà, et je regrette un petit peu ces excès. Ils leur préfèrent la sobriété, ce qui ne les empêche pas de s'amuser. Voilà. Donc on aura un débat ensemble là-dessus. Pour le coup, bon, je connais bien les deux versants puisque je suis un ancien fêtard alcoolo, il faut dire les termes, repenti. Voilà. Et c'est aussi unique, c'est aussi un business aussi, parce que du coup, il y a de plus en plus de marques qui se positionnent sur le secteur du sans-alcool. On se penchera sur ça. Mais ça me semble être une bonne nouvelle pour la santé publique, en tout cas. Hein, pour la santé publique, pour les finances publiques aussi, puisque le coût de l'alcool pour la société, il est gigantesque. Si dans le chat, levez la main, dans le chat, les crabes, les homards, les araignées de mer, tout ça. Y en a ou pas? Je sais pas si j'ai des... J'en ai, oui. Bubu, oui. Grenouille, non. Ça vous concerne pas. C'est plutôt les crustacés. Voilà. Regardez en bas de la, c'est dans Le Monde, donc c'est assez sérieux. L'Angleterre. J'ai toujours bien aimé l'Angleterre, moi. J'aime bien l'Angleterre. J'aime bien ce pays. J'aime bien sa langue, même si je la pratique très mal. J'aime même sa cuisine. Les Anglais, je trouve super sympa. C'est des gros fêtards. Ouais, je reviens à d'autres trucs. J'aime bien l'Angleterre. Et là, je les aime encore plus. L'Angleterre va interdire l'ébouillantage des homards et des crabes. Cette mesure s'appliquerait d'ici à 2030 aux crustacés et aux mollusques céphalopodes reconnus comme êtres sensibles par la loi anglaise. Pourquoi ? Moi, je suis fils de poissonnier, donc je connais très bien ça. Comment on cuit le homard ou le tourteau ou l'araignée de mer de façon traditionnelle ? On le jette dans un bouillon bouillant, quoi, dans une eau bouillante. Voilà. Et bon, longtemps, on s'est dit, bon, hein, c'est des crabes. Et puis, est-ce qu'ils sentent seulement cette douleur ? Bah, les scientifiques se sont penchés sur la question. Et oui. Et les crabes, ils la sentent, cette douleur. Et ils se sentent ébouillantés vivants. Voilà. Et donc, les Anglais, il ne leur manque pas les terminaisons nerveuses ? Eh bien non. Voilà. C'est ce qu'on a voulu croire très longtemps. Et donc, du coup, les Anglais, là, il y a une loi qui arrive d'ici 2030, voilà, où on va interdire l'ébouillantage. Je sais pas si le monde utilise ce mot, c'est que le mot est utilisable. Je ne connaissais pas l'ébouillantage des crustacés. Voilà. Alors, pour être remplacé par quoi ? Alors, c'est là où ça se complique un petit peu, vous verrez. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour les homards et pour les crabes. Qui parmi vous me dira que pour les homards et les crabes, ça n'est pas une bonne nouvelle. On se penchera là-dessus. Et puis, alors, moi, j'ai trouvé que c'est une bonne nouvelle. À une époque, aujourd'hui, c'est les jeux vidéo, mais à une époque, c'était des dessins animés accusés de pervertir la jeunesse. Voilà, tous ces jeunes biberonnés à Récréa 2, aux premiers animés en France, et autres lecteurs de mangas et de jeux vidéo, voilà, qui allaient... provoquer des générations de décervelés. Et bien là, on a un article dans L'Équipe du début de semaine qui nous dit que le dessin animé Jeanne et Serge, dont sur le monde du handball, a provoqué pendant des années une explosion du nombre de pratiquants garçons handball, volley, pardon, pratiquants de volley. Voilà, fou. La série animée mythique de la fin des années 80 a fait exploser le nombre de licenciés à la Fédération Française de Volleyball. De l'impact positif d'un dessin animé sur les jeunes. Voilà. Au point d'être considéré comme l'un des fondements de la place actuelle de la discipline en France. Voilà. Si la France est une grande nation de volley aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs parce que je ne suis pas un grand spécialiste de volley, eh bien c'est notamment grâce à cet animé Jeanne et Serge. Je trouvais ça intéressant de lire ce dossier. Voilà pour mon petit sommaire. Il y a eu le même phénomène avec IQ plus récemment, il me semble. IQ, c'est du volley aussi ou c'est un autre les garçons volley sont très forts en France, gros. IQ, c'est du volley aussi ou c'est autre chose? C'est du volley aussi. D'accord, ok. Mais pourquoi il y a des dessins animés sur le volley? Ok. Merci Asdar pour le 14e mois. Merci Freeman. Merci Eliox Lapox. Merci. Vous avez déclenché des trains de live de fou. Qu'est-ce que vous pensez de cette revue de presse des bonnes nouvelles ? Est-ce que c'est pas une bonne idée de nous faire une petite pause le samedi après-midi, hein, après cette tartinée, cet enduit, cette roulée dans les mauvaises nouvelles toute la semaine, le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin, le jeudi matin, le vendredi matin ? Ça va nous changer un peu, ça va nous changer. Hein. À la fin de cette revue de presse, on va peut-être de nouveau espérer dans le genre humain. Hein, c'est un petit peu l'idée, quoi. Hein. C'est la commu, c'est une idée de la commu, c'est une idée de la commu. C'est moi qui l'ai eue. Allez, première bonne nouvelle, c'est parti. Je vous mets le premier titre. L'offensive des petits trains, c'est ainsi que j'ai appelé ce sujet. C'est dans Libé des solutions, parce que je ne suis pas le seul à essayer de temps en temps de parler des bonnes nouvelles. Libération a un numéro spécial régulièrement. Merci Rilvain pour le 45e mois, c'est beaucoup. Régulièrement, qui s'appelle le Libé des solutions. Ce n'est pas le Libération des problèmes, c'est le Libération des solutions. Voilà. Qui parle beaucoup d'environnement dans cette édition qui était datée de mercredi dernier. Voilà, et qui nous parle notamment, merci Laetitia, tu régales, de ces petites lignes, mais de grands projets, de ces nouveaux trains qui pourraient apparaître en France bientôt, avec Telly et Drézy. Regardez comme il est beau, regardez comme il est chou. Regardez-moi ce petit train. Regardez comme il est mignon. Alors c'est plus petit qu'un TER, vous allez voir. Avec Telly et Drézy, regardez-moi ça. On dirait un train d'animé. Avec Telly et Drézy, deux équipements électriques et légers, donc plus petits, plus légers que les TER. Quoi. La SNCF et les régions pourraient renforcer ou ouvrir des dessertes qui n'avaient plus vu passer de train depuis longtemps. Voilà. Une reconquête, reconquête, des mobilités locales, comme une revanche sur le tout TGV. Dossier signé Damien Dole. C'est une image qui fait rêver, celle d'un train qui défile à travers prairie ou vallée. Moi, je suis un fan du train. Qui s'arrête dans une petite ville où montent des voyageurs qui ont préféré le rail à la voiture. Sauf que des décennies de sous-investissement de la part de l'État, c'est ce qu'on a appelé le tout TGV en France, et une priorité donnée à partir des années 50 à la bagnole, ont laissé des traces. Et s'il est toujours hasardeux de comparer les cartes du réseau actuel avec celui des années 30, difficile de nier que le service public ferroviaire a reculé. Bon, ça se débat. Le TGV, ça a rapproché les gens, ça a mis des villes qui étaient à 7 heures à 2 heures ou à 3 heures, mais voilà, ça a favorisé les grandes villes, les grandes lignes, mais les petites villes et les régions économiquement moins riches, elles, ont été un peu laissées de côté. De nombreuses régions, ce sont celles qui depuis 2002 ont la main sur ce qui ne relève pas de la grande vitesse ou des intercités, ont décidé donc de pallier les carences de l'État et de multiplier les études pour ouvrir de petites lignes. Eh bien, moi, je trouve ça formidable, parce que moi, je suis un amoureux du train. Notamment pour des raisons environnementales, mais pas seulement. Et ont même déjà commencé à en inaugurer. Sauf qu'elles font face à de nombreux obstacles, prix du matériel roulant, régénération du réseau, accessibilité des gares, des obstacles que les trains légers promettent de surmonter. Quelqu'un me dit, depuis 1981, oui, tu as raison, Big Terminator. J'ai l'impression que le TGV, ça... Alors, le TGV, ça a été une révolution. Hein. Moi, je suis de cette génération qui a connu l'avant-TGV. Hein. Des heures pour aller d'une ville à une autre, dans le charme des trains corail, comme on disait à l'époque. Non, pas la calèche, bordel. Arrête. Et c'était charmant, mais c'était lent, quoi. Moi, qui faisais beaucoup d'allers-retours entre Rennes et Paris, dans le jour où le TGV alors, d'abord a mis 2h20, puis 2h, puis maintenant 1h30 pour relier Paris et Rennes, c'était une révolution. Mais le problème, c'est que cette révolution, elle a aussi laissé des gens de côté. Quoi. Non, je n'ai pas fait de voyage en mammouth. Non. Ouais. Car même les plus ardents défenseurs du ferroviaire, pour tous l'admettre, les TER actuels, souvent vieillissants, ne sont pas adaptés aux plus petites lignes, lesquelles ont pourtant des fonctions vitales, désenclavement, attractivité, diminution des trajets en voiture. Pour maintenir ou ressusciter ces lignes de desserte fine du territoire, il fallait donc réfléchir, tant pour les régions, la SNCF, que pour les acteurs industriels, à de nouvelles solutions matérielles. Bon, voilà. Il y avait un besoin de trains pour les dessertes les plus locales, et ces trains n'existaient pas, les TER n'étaient pas adaptés, et on est peut-être en train de les inventer. Alors, j'essaie de vous lire les passages les plus intéressants. Voilà. Et on apprend donc dans ce Libération des solutions que la SNCF soutient deux projets de trains légers. Avec chacun sa fonction et ses donneurs d'ordre, et la chose avance à bon rythme. C'est bizarre d'avoir des bonnes nouvelles dans l'actualité, je ne suis pas habitué. À tel point qu'il n'est pas illusoire de les imaginer rouler d'ici quelques années. Ces deux projets, c'est Telly et Drézy. Deux petits trains. Hein. Les deux entièrement électriques sur batterie, donc pas besoin de caténaire. Pas besoin de caténaire, donc moins d'équipement. Sont accompagnés par des poids lourds dans leur domaine. Telly, c'est Alstom, CAF, CAF, je sais pas ce que c'est, Hitachi ou encore l'ADEME. Drézy, les entreprises alsaciennes LOR et de recharge de voitures Station E. Une philosophie que le gérant ferroviaire développe d'ailleurs aussi pour Flexi, une navette qui roulera sur route et sur rail en partenariat avec Michelin. Michelin dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs. L'objectif de ces trains innovants n'est pas réservé qu'aux lignes qui ne sont pas circulées aujourd'hui. Tempère le vice-président au transport en Occitanie. Au ferrocampus de Saintes en Charente-Maritime trône ainsi une maquette grandeur nature de Télie, destinée notamment aux régions qui souhaiteraient voir ce qui pourrait remplacer leur fameuse locomotive diesel. Parce que là, on parle de ACAF, c'est un constructeur de train espagnol. Merci beaucoup. Je ne le savais pas. Hein. Parce que moi, par exemple, qui aime bien le train, bah, parfois, je me retrouve dans des territoires un peu reculés, entre guillemets, en tout cas pas accessibles aux grandes lignes. Je pense à Quiberon, qui est accessible l'été par un train qui fait Auray-Quiberon, par exemple. Bon, bah, c'est une locomotive diesel. On l'appelle le tire-bouchon, je crois. Elle est diesel ? Attends, je dis une bêtise ou pas ? Ou elle est sur caténaire ? Non, je pense qu'elle est diesel. Et puis en Corse, j'ai vu aussi des trains diesel circuler. Voilà. Les fameuses locomotives diesel X73-500 en fin de vie sur la ligne TER. L'intérieur contient déjà tous les aménagements qui sont disponibles. Donc là, on parle de trains qui seront électriques, sur batterie, donc c'est des petits trajets. Des racks à vélo aux banquettes en U, en passant par des espaces dévolus aux micro-frettes, aux petits colis, le tout avec un accès de plein pied indispensable pour l'accessibilité. Le tire-bouchon à Quiberon, il est au diesel ? Ok, c'est ce que je me disais aussi. Merci Sugar Harry. Quand les régions vont les renouveler, il faudra qu'elles... Donc les fameuses locomotives diesel, là, qui sont un peu en fin de vie, qui sont vieillissantes, il faudra qu'elles puissent avoir des solutions décarbonées, fonctionnelles et avec beaucoup d'innovation. Explique le directeur des TER chez SNCF Voyageurs. Et nous souhaitons que le Télie, ce fameux petit train, soit le moins cher possible. À la production, il sera un peu moins coûteux donc que les locomotives diesel. Là. Mais ce que l'on vit surtout, c'est d'abaisser le coût d'exploitation. C'est donc une fois mis en circulation que les avantages économiques souhaités de Télie devraient être les plus significatifs. Mais au-delà de la pérennisation des petites lignes, donc il y a ce souci de pérennisation de petites lignes, je crois comprendre dans ce dossier, s'il n'y a pas d'erreur, qu'en gros on a des petites lignes aujourd'hui avec des locomotives diesel qui sont vieillissantes, qu'il va falloir remplacer. Donc il y a une volonté de remplacer ces locomotives diesel par des trains électriques, a priori sur batterie, sans caténaire. Mais au-delà de la pérennisation de ces petites lignes, c'est essentiel. Hein, la SNCF veut surtout répondre à une volonté farouche de nombreuses régions en rouvrir de nouvelles. Les trains dont nous disposons aujourd'hui sont surdimensionnés pour les lignes de desserte fines du territoire en termes de capacité, de performance, de contraintes embarquées, donc de coûts, donc des trains trop gros, quoi. Résume David Borot, directeur innovation chez Groupe SNCF. C'est comme si aujourd'hui vous aviez besoin d'une Clio pour aller faire vos courses et que les concessionnaires ne vous proposaient que des break ou des SUV. Ce décalage entraîne un engrenage mortel pour les petites lignes, moins de trains disponibles, une ou deux circulations le matin et le soir, la ligne est alors petit à petit abandonnée par les usagers au profit de la voiture avant de disparaître. C'est le cercle vicieux. Au contraire, Télie fera 29,90 m pour éviter de dépasser le palier de 30 m qui implique des coûts supplémentaires en raison de la réglementation. C'est souvent le modèle économique qui posait problème. Les trains Régiolis que je viens de commander, c'est 14 millions d'euros pièce, constate le vice-président de la région Grand Est. Cela ne se justifie pas si le train n'est pas rempli régulièrement. L'avantage d'un train léger, c'est cette flexibilité qui permettrait d'assurer quasiment toute la journée des allers-retours sur une petite ligne jusqu'à une gare intermédiaire qui permet ensuite de rejoindre une autre ligne plus empruntée. Si la fonction... Attention, parce que ces trains, ils sont pas en circulation encore. Hein. On va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, je crois que ce ne sont que des projets. Si la fonction de Télie est principalement de maintenir les petites lignes existantes en réduisant les coûts globaux, Drézy, lui, a clairement pour ambition d'en ouvrir de nouvelles. C'est à Düppingheim, dans le Bas-Rhin, dans l'usine de Lore Industrie, connue pour son ingénieux système de fret rail-route Modalore, qu'il sera produit. Sur le parking, pour l'instant, ce sont surtout des dizaines de poids lourds, porte-voitures, best-seller d'entreprise que l'on voit. Mais dans le bâtiment qui leur fait face se trouve une maquette, grandeur nature. L'Usaxel, je vais vous lire, hein, parce que je vois plein d'avis assez éclairés et parfois sceptiques sur ce sujet. C'est pas parce que c'est la revue de presse des bonnes nouvelles que je vais ignorer vos messages un peu sceptiques sur ça. Bien sûr, vous inquiétez pas. Je vais vous lire. Donc, dans le bâtiment qui leur fait face se trouve une maquette grandeur nature de Drézy, train couleur turquoise ressemblant à un gros tramway. À l'intérieur, pas d'aménagement, mais des vidéos projetées sur chaque pan de mur, histoire de s'imaginer circulant à bord du littoral ou à travers les vignes. Le but ultime de ce train, garantir un niveau de confort similaire à un TER d'aujourd'hui, tout en exploitant sur des lignes dites dégradées en termes de réseau, résume le directeur des activités ferroviaires de l'Eure, qui narre le travail sur l'essieu afin de ne pas endommager outre mesure les rails, mais aussi pour les voyageurs ne sentent pas la différence par rapport à une ligne habituelle. Le poids est d'ailleurs un enjeu majeur pour ces trains légers, avec ses 20 petites tonnes, 30 places assises par voiture, contre minimum 130 tonnes et 220 places pour un régiolis, ce train pourra rouler sans risque sur une infrastructure plus abîmée. Nous visons une remise en état à minima des voies. J'espère que ça ne posera pas de questions de sécurité cette histoire quand même. Au contraire d'un train classique qui a besoin d'une voie parfaite s'il ne veut pas être limité en vitesse à un moment donné. L'idée était de re-challenger, le système ferroviaire dans sa globalité, appuie le directeur innovation du groupe SNCF qui, en plus du matériel des infrastructures, deux autres curseurs qui doivent être modulés afin de faire baisser la facture en moyenne de 30 à 50% par rapport à une exploitation classique. Objectif qui sera ajusté avec les premiers essais en Alsace de 2027 et des circulations souhaitées avant 2030. C'est pas tout de suite, tout de suite. Bon, le dossier est énorme, je vous lis pas tout. Et après, je vais vous lire vous. Parce que je vois qu'il y a des, gens qui travaillent dans le domaine des chemins de fer dans le chat. Là, je vais vous lire. Parce que j'ai vu des messages très sceptiques sur ce qu'on est en train de lire là. Vous allez me niquer ma revue de presse des bonnes nouvelles. La spécificité de Drézy, c'est que c'est un système taillé sur mesure pour ne faire que de la petite ligne. Si Drézy ne circulera que sur des petites lignes, les régions réfléchissent aussi à des systèmes hybrides qui permettraient sur certaines dessertes où existent des circulations pendulaires de faire passer des trains plus capacitaires pour les horaires de travail. Ok. Et il y a un édito d'Alexandra Schwarzbrod dans Libération qui semble s'en féliciter. Est-ce que je le lis? Est-ce qu'il apporte quelque chose? Je le lis, vite fait. Et après, je vous lis, vous. Hein? Alexandra Schwarzbrod, pourquoi Libération se félicite de ce truc-là? Avec la disparition du boulanger, du médecin généraliste ou du bureau de poste regroupé bien souvent dans une zone commerciale accessible uniquement en voiture, la fermeture des petites lignes de chemin de fer est un des facteurs qui explique ce sentiment d'abandon ressenti par nombre de Français en zone rurale et qui vient nourrir après bien des aigreurs politiques, si je peux me permettre de rajouter. Sentiment qui peut se transformer en colère et même en révolte, on l'a vu lors du mouvement des Gilets jaunes contre ces élus politiques jugés trop éloignés des préoccupations quotidiennes des citoyens. Ce sentiment d'abandon doit être pris très au sérieux, car il était un carburant pour l'extrême droite qui protégeait l'exercice du pouvoir à beau jeu de l'exploiter à l'envi. L'arrivée de petits trains, sous forme d'équipements électriques et légers, aptes à désenclaver certaines parties du territoire, est donc une formidable nouvelle pour clore cette année morose. Après des décennies de priorités données au tout TGV qui a capté tous les investissements et creusé encore le fossé entre Paris et les petites villes ou les villages, la SNCF et l'État, ou plutôt les régions, ont enfin compris à quel point il était important de mailler le territoire pour mieux régénérer des zones désertées faute de moyens de circuler. Les petites lignes ont l'immense mérite de se substituer au car ou à la voiture et surtout de faciliter la vie de tout un tas de gens isolés. Elles permettent de donner l'accès à l'emploi, à la santé, à l'enseignement, à la culture, l'accès aux autres, tout simplement. Certes, on n'y est pas encore. Prudence, ces petits trains légers ne seront pas opérationnels au mieux avant 2030, mais la prise de conscience est là, c'est déjà énorme, et mieux que ça, des entreprises y travaillent. Nous avons visité leur usine ou leur bureau d'études. L'avenir n'est donc pas totalement dénué d'espoir et surtout de solutions. Et maintenant, je vous lis. Wera Silvestra, en tant que Normande, je n'ai pas vu la révolution tout TGV. Plus sérieusement, ça me paraît un petit peu tard, car chez nous, les petites lignes sont devenues des voies vertes depuis belle lurette. Mais pourquoi pas? Les petites lignes seraient bien chez moi, me dit Neffelheim. Aucun transport en commun. L'ancienne ligne SNCF transformée en voie verte. Si tu n'as pas de voiture, tu ne peux rien faire. Je vais prendre une douche, me dit Plop. J'ouvre le shampoing. Amande douce ou fraîcheur menthe, c'est important. Prends fraîcheur menthe, c'est samedi. Travaillant dans une petite entreprise balbutiante dans l'industrie ferroviaire, me dit McFly Show, cette bonne nouvelle est rassurante pour notre activité. Alors, j'ai vu quelques messages très sceptiques sur cette initiative. Je vous remets la une. Je vous remets la jolie une de Libé. J'essaie de les retrouver. Kigon. Moi, je suis pour la réouverture de ces toutes petites lignes dans les villages plutôt que le tout automobile slash bus. Hein. Ça nécessite un désherbage des lignes abandonnées, mais les tracés, les rails sont toujours là. Ah, Lusaxel, c'est toi que je cherchais tout à l'heure. J'ai vu ton message. L'offensive des petits trains me fait rire énormément. Il y a de ça des années, on a délaissé l'entretien des petites lignes au profit des grandes lignes, tout ça pour en revenir. Résultat, ça coûte plus cher maintenant pour moderniser et réadapter les lignes gares plutôt que de les avoir entretenues. Ah, t'es pas sceptique parce que tu trouves ça naze. T'es sceptique parce que tu dis qu'on aurait dû faire ça depuis très longtemps. Ok. L'idée en soi est bonne, mais comme beaucoup de choses en France, on délaisse pour y revenir après, d'autant plus que l'idée est bonne mais pas nouvelle en somme. Ok. Ben, je pensais vraiment que tu trouvais que c'était naze comme idée. En fait, tu trouves ça bien. Alors, je savais qu'il y avait des spécialistes des trains dans le chat. Les locomotives diesel X73-500 dont je parlais, Pira me dit, elles datent des années 2000, elles ne sont pas si obsolètes, elles ne sont pas prêtes d'être changées, leur durée de vie est d'encore de 20 ans, elles viennent d'être rénovées en mi-vie. Finalement, je ne vois pas tant de messages, négatif, je crois que je me suis trompé. Oula, j'ai vu ce message, au moins il laisse rien passer, c'est mieux. Non, je lis tous vos messages, c'est mon petit bonheur. J'ai fait beaucoup de régions Moselle, Aisne, Puy-de-Dôme, dit Adichat, et les transformations d'anciens chemins de fer en voies vertes. Pardon, mon inculture, mais qu'est-ce qu'on. Vous êtes très nombreux à me parler de voies vertes. C'est quoi une voie verte? C'est une ancienne voie de chemin de fer qui a été. Qui est totalement démantelée, c'est ça? Ah. Et d'anciens chemins de fer en voie verte est vraiment récurrent. J'aimerais bien voir une carte des lignes abandonnées, mais dont la rénovation est encore possible. C'est ça? Pour vélo? Ah, c'est devenu. Ça vient de pistes cyclables? D'accord, ok. Ok, voie verte. C'est une prise conscience de la part de la SNCF, elle l'a toujours su, me dit Alain, à propos du sujet qu'on vient d'évoquer. Le problème, c'est la réalité des coûts des destinations avec 5 personnes qui prennent le train et qui les limitent. C'est d'ailleurs sous-entendu dans l'article que tu viens de lire. D'accord, c'est des pistes où les piétons sont prioritaires avec des vélos et tout. Ok. Bon. On verra donc. Hein. 2030, a priori, les premiers trains, les petits trains en circulation. Ok. Bon, pas mal. Voici pour ce qui me semble, malgré tout, être une première bonne nouvelle dans cette première revue de presse des bonnes nouvelles intitulée « Samedi des bonnes nouvelles » de ce samedi 3 janvier 2026. Deuxième, on va encore parler d'environnement, parce que l'un des intérêts du train, en tout cas quand il est électrique, c'est effectivement que comparé à l'avion et à la voiture, il est bien sûr plus intéressant. On va parler d'environnement avec la Croix et on va parler de famille. C'est mon deuxième sujet. Transmettre un monde durable. Pour conclure son année, puisque c'est le La Croix de mercredi dernier, 31 décembre, pour conclure son année, parlons écologie, puisque La Croix a mis l'accent sur l'environnement toute l'année. Là. La Croix zoome sur les jeunes, les enfants, qui seront en première ligne pour assumer le monde de demain. Et fait ce constat que je trouve très intéressant. La famille en France, espace de sensibilisation à l'écologie. Consommation de viande, voyage en avion, consumérisme ou sobriété, ce sont peut-être des sujets que vous avez abordés en famille. ça invite bien souvent jusqu'au cœur des foyers. Parfois conflictuelles, les discussions peuvent aussi être le terreau d'un apprentissage réciproque. Alors, quelques exemples, quelques histoires de famille dans la croix pour bien comprendre de quoi on s'agit, puis vous me direz peut-être même ce que vous avez vécu, vous, dans le cercle familial à évoquer ces questions liées à l'environnement. Océane, par exemple, enfant, ne se souvient pas avoir été particulièrement sensibilisée à l'écologie, à l'exception peut-être d'un éteint la lumière en partant, lancé à la volée par ses parents. Variante, c'est pas Versailles ici. Puis lors d'un cours au lycée, un professeur montre la vidéo d'un élevage intensif porcin qui la choque. J'ai d'abord découvert l'écologie via l'enjeu du bien-être animal. On parlera tout à l'heure de l'ébouillantage des homards. Hein? Résume celle qui est désormais trentenaire et éducatrice spécialisée. Puis j'ai compris que l'élevage intensif était aussi une cause majeure de pollution. Oui, le CEPA Versailles, vous connaissez? C'est toi qui paye... Ah oui, c'est quoi? C'est toi qui paye la lumière? Je me suis surpris à dire à mes pauvres enfants, les pauvres... De 5 et 8 ans, là, hier ou avant-hier, enfin, à leur dire, à marmonner dans ma barbe, ils étaient à 20 mètres, ils n'ont rien entendu. Et c'est pas Versailles ici! Il n'y a que moi qui éteins les lumières. Je me suis rappelé que mon père nous disait la même chose. Papa, c'est celui qui passait derrière nous pour éteindre les lumières. C'est pas Versailles ici! C'est un truc qui se transmet de génération en génération, quoi. Moi, je dis à mon fils, si tu n'éteins pas, tout va exploser, dit Gazuni. C'est faux, mais ça marche, ok. On n'est pas chez les Rothschild, me dit Fefego. J'ai la variante. Ton père bosse chez EDF pour laisser allumer? C'est trop mignon. Tu t'es créé à l'hôtel? J'adore. Il y a des choses vécues dans le chat. Tu t'es créé à l'hôtel? Mais que disent les parents qui habitent à Versailles à leurs enfants? Très bonne question, d'Abtéré Kiki dans le chat. Quand tu habites Versailles, pas le château, mais la ville de Versailles. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Tu ne peux pas leur dire, on n'est pas à Versailles ici. Alors, si vous êtes concerné, si vous êtes parent versaillais, eh bien, je vous propose une alternative qui est, on n'est pas au château de Versailles, ici. Ou c'est pas Chambord, ou c'est pas Chambord, ou c'est pas Chambord. Donc, je continue à lire parce que j'ai fait un petit pas de côté. Ni une ni deux, donc Océane, qui a été sensibilisée aux questions environnementales dans sa jeunesse, décide alors de devenir végétarienne avec ses deux sœurs. Les parents sont pris de court, vous avez trois filles de la maison qui du jour au lendemain deviennent végétariennes. Les parents sont pris de court, on imagine la scène. Hey, allez, dimanche, je vous ai fait un bon rôti. Ah oui, mais non, nous on mange pas de viande, on mange plus de viande. Ça aussi, chose vécue, je suppose. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont connu ça, quoi. Les parents sont pris de court, même s'ils opposent pas frontalement. Bon, donc là, les parents sont en mode cool, quoi. Ah, ok, vous voulez pas de rôti. Ce qui n'empêche pas l'ambiance de devenir parfois explosive à table. Se souvient la jeune femme, hein, on nous renvoyait l'idée que l'on cassait les pieds. Oh là 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 là. Alors qu'on avait le sentiment de s'engager pour le futur de l'humanité. Une quinzaine d'années plus tard, les discussions à table se sont apaisées dans cette famille. Voilà. Tu vois, il y a Saoudar qui dit dans le chat « Ça fait 6 ans que je suis végétarien, mes parents ne prévoient jamais pour moi à table. » C'est pas très cool. C'est pas très cool. C'est pas très cool. Eliox Lapox, j'ai rendu ma mère végétarienne. Voilà, Séverine, fan de coco, je suis devenue végétarienne il y a 11 ans et ça a été la meilleure décision de ma vie. Quand tu dis fan de coco, tu parles de la noix de coco, hein ? Rassure-moi. Ça marchera pas chez moi, me dit Dadoudev, c'est moi le parent et je suis pas végétarien, ok. Ok. Fan de Fabien Roussel. Ah oui, Coco, je l'ai. Je l'ai. Ma fille nous a rendu végé pendant un an. Qu'est-ce qui s'est passé après un an, Marine? Vous êtes devenu végétarien pendant un an et après, full protéines, full viande? Parce que c'est pendant un an. Pendant un an. Après, on passe à autre chose. Allez, poulet, bœuf, lapin, tout. Cochon, c'est ça. Donc, aujourd'hui, les discussions se sont apaisées dans cette famille. Une quinzaine d'années plus tard, les discussions à table se sont apaisées. Quand mes trois filles sont devenues végétariennes, je m'inquiétais surtout des risques de carence. Bah oui, les protéines, tout ça. Et puis, on ne cuisinait pas végétarien à la maison. Je me souviens la maman qui s'appelle Isabelle. Peu à peu, j'ai appris certaines recettes. La maman s'y est mise, quoi. J'ai accepté leur décision car elles n'ont pas remis en cause mes habitudes ni celles de mon mari. Tu vois, c'était pas les trois sœurs sont devenues végétariennes, mais elles n'ont pas mis la surpression sur les parents pour qu'ils deviennent à leur tour végétariens, quoi. Cette fonctionnaire a même été jusqu'à réduire à son tour, d'ailleurs drastiquement, sa consommation de viande à une fois par semaine. La maman, elle est quasiment végétarienne. Mes enfants m'ont ouvert les yeux sur la question du bien-être animal. Désormais, pour le peu que je consomme, je regarde les labels. Salut Victor Ramus. Je suis végé depuis 15 ans, mes parents s'y sont habitués depuis plusieurs années, mais le poisson, ils n'arrivent pas à imprimer que j'en mange pas. Ah oui. Tiens, je t'ai fait du poisson. Comme t'es végétarien. Gare aux clichés simplistes qui voudraient que seuls les jeunes et tous les jeunes soient engagés en matière d'environnement, parce que c'est faux. Hein. Il y a des vieux engagés en matière d'environnement, il y a des jeunes qui ne sont pas du tout. Mais à l'heure de l'urgence climatique, le cas d'Océane et d'Isabelle ne raconte pas moins la façon dont certains enfants peuvent effectivement sensibiliser leurs parents à l'écologie. Dans une étude sur le dialogue intergénérationnel publiée par l'ADEME, qui est l'agence de la transition énergétique, écologique, pardon, 39% des 55-75 ans en 2023 disaient d'ailleurs avoir été interpellés par les plus jeunes, par leurs descendants, sur leurs pratiques. Mes enfants ne m'en parlent pas trop, moi, de ça. Pour l'instant, ça... Ouais. Pour l'instant, ça bouffe de la viande, ouais, ils m'en parlent. Mais à un moment, ça va pop à la maison. Hein. Pop à la maison. À commencer par leur usage du plastique, leur consommation de viande, ou l'utilisation de la voiture. Ces deux dernières étant souvent des sources importantes d'émissions à gaz à effet de serre à l'échelle individuelle responsable du réchauffement climatique. Plastique, viande, voiture. Dans le même temps, une grande majorité des 55-75 ans... Je suis pas dedans. Vous noterez que les vieux dans cet article sont les 55-75 ans. Je ne suis pas dedans. Je suis considéré comme un jeune par cet article. Ça, on est dans la revue de presse des bonnes nouvelles. C'est le samedi. Eh oui. Bon, pour 5 mois encore. Dans 5 mois, je serai pour la croix dans les vieux. Dans le même temps, une grande majorité des 55-75 ans interrogés estiment eux-mêmes avoir transmis des pratiques écolo. Lutte contre le gaspillage alimentaire, économie d'eau, d'électricité, prendre soin de ses affaires pour remonter leur durée de vie. Moi, je fais ça, moi. Se balader dans la nature, jardiner, ça, je fais pas. Il faut accepter de monter en compétence, quel que soit son âge, et la famille peut être un espace pour apprendre ensemble. Chez Catherine, 59 ans, la bascule s'est produite par hasard il y a quelques années, c'est au détour d'une conversation à table avec son fils, ingénieur, 27 ans, que son fils évoque le nom de Jean-Marc Jancovici, qui a vulgarisé dans de longues conférences disponibles sur YouTube les conséquences des émissions des gaz à effet de serre. « Regarde, dit-il à sa maman, on en reparlera. Aurait-elle visionné 2 heures de vidéo sur le sujet si le conseil ne venait pas de son fils ?» Quoi qu'il en soit, cette professionnelle du marketing et de la région d'Annecy, pas écolo pour un sou, n'en est pas revenu. Je suis tombé des nues après avoir vu cette vidéo. Hein, j'avais entendu parler du sujet, mais je n'avais jamais pris conscience de sa gravité et de l'urgence. Elle s'informe alors à grande vitesse. À la maison, la voiture est remplacée par une électrique, la viande fortement réduite. Mon mari a suivi le mouvement et depuis, toute la famille est à fond. Rit-elle. Nous étions déjà proches, mais cela a encore resserré davantage les liens avec mes enfants. Mignon. Je vais vous lire, hein, pour l'instant je lis l'article, mais je vais vous lire. C'est surtout sous son temps libre que cette mère de famille se démène, engagée au sein des Shifters, association de professionnels bénévoles qui œuvrent pour la décarbonation auprès des entreprises et des communes. Elle sensibilise actuellement à ce sujet les candidats aux élections municipales, donc elle est devenue militante. Loin d'une sensibilisation unilatérale, c'est parfois un apprentissage réciproque qui se dessine. Laurent, 62 ans, désormais retraité de l'éducation nationale, a baigné toute sa vie dans les milieux associatifs écolo, culture héritée de ses parents, qu'il a lui-même transmise à ses enfants. Avec le recul, je me dis que c'était un militantisme peut-être un peu pantouflard. J'allais manifester et je votais aux élections. Mais quand son fils s'est retrouvé en procès pour avoir participé au décrochage de portraits d'Emmanuel Macron, action de désobéissance civile menée dans plusieurs mairies en 2019 par le mouvement Action non violente COP21, son militantisme a trouvé un nouveau souffle. Là, on est sur une famille de militants. Cela a affiné notre vision de ce qu'étaient les enjeux environnementaux, raconte-t-il, non sans une pointe de fierté devant l'engagement de ses enfants. J'étais dubitatif sur la désobéissance civile, mais j'ai vraiment vu à quel point cela pouvait être utile pour visibiliser le sujet. Il y a Opachita dans le chat qui vient de dire arrête de tousser, t'es en audio dans la voiture, tu nous fais peur. Bah arrête d'être malade, Samuel Etienne. Arrête d'être à l'article de la mort et de faire des revues de presse quand même, parce que c'est pas parce que t'as les poumons en feu depuis 15 jours que tu vas arrêter de streamer, quoi. Ouais, t'as qu'un. Je sais pas, t'as qu'à écouter Nostalgie, là, t'es en voiture. Ça va moins tousser, ça va moins tousser, là. Vas-y, mets-nous du Michel Thor sur l'autoroute. C'est dingue, ça. T'es malade ? Arrête ! Tu cherches un emploi ? Traverse la route. T'as des idées noires ? Fais du sport. Non mais sans blague. T'en donnais, moi. Je continue. C'est fou, ça. Pourquoi Michel Thor ? Je sais pas. Nostalgie, je me suis dit, ils doivent mettre du Michel Thor. J'aime bien Michel Thor, par ailleurs. On peut plus tousser tranquillement, c'est dingue, ça. Excusez-moi d'être malade. De Dieu. Donc, bref, du coup, ce papa a décidé de s'engager plus activement. Il faut dire que si l'enjeu des générations futures irrigue depuis des décennies la question écologique, le réchauffement climatique lui a donné une autre urgence. Selon les projections scientifiques, la température en France aura augmenté de 2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle d'ici à 2050. Un enfant né en 2020, j'en ai un qui est né en 2020, moi, connaîtra vraisemblablement un réchauffement de 4 degrés en 2100 si la trajectoire n'est pas infléchie. Et 4 degrés, c'est énorme. C'est d'ailleurs ce qui a conduit Yaël, 36 ans, à s'intéresser au sujet. 6 mois après la naissance de sa fille en 2022, elle tombe au hasard sur un podcast consacré à la question de l'eau. Pas franchement intéressée par les émissions sur l'écologie, elle décide néanmoins de tendre une oreille. À ce moment, je me suis dit que c'était ma responsabilité de mère de savoir dans quel monde ma fille grandirait. Tout comme Catherine, elle a une révélation, mon monde s'est effondré. Poursuit cette professionnelle de l'informatique. J'imaginais ma fille dans quelques années me demandant « Mais maman, qu'est-ce que tu as fait pour empêcher cela ?» Ah ouais, ça fait flipper un peu. Après une phase de déprime, la maman s'active. Mon combat est désormais de sensibiliser le plus de gens possible afin qu'ils ressentent le besoin de s'engager. Dans son travail, elle est désormais à la tête d'un petit groupe sur le sujet. Et pour celles qui avaient des frénésies d'achat autrefois, elle est désormais plus question d'acheter du neuf et de l'inutile pour son foyer. J'essaie de passer le plus de temps possible. Pardon, je tousse, je m'excuse pour ceux qui écoutent Nostalgie sur l'autoroute. J'essaie de passer le plus de temps possible avec ma fille à l'extérieur, de lui inculquer ses valeurs. J'aurais réussi si ma fille grandit dans le respect de ce monde. Là, c'est pas mal. T'as raison, cette petite discussion familiale, là. Et après, on a une pédopsychiatre qui donne des petits conseils pour les parents pour parler d'écologie aux enfants. Ok, je vais voir ça. Je vous lis. Salut Gouya, quoi. Grâce à des membres de la communauté et notamment l'ami Boubou, on a un magnifique sommaire désormais. Oui, c'est vrai que Nostalgie en plus met des chansons beaucoup plus récentes maintenant, je sais. Je sais. Je vous lis, je suis en train de vous lire. Il y a un débat sur. Alors, je sais de vous parler d'environnement, d'écologie. Le chat ne parle que de Radio Nostalgie et de Michel Thor. Eh ben. Ok, mais c'est parce que c'est le samedi ou pas? Parce que j'ai aussi en message, et faire caca dans son jardin, c'est écolo en vrai. Ok, d'accord. Non, mais c'est parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est un autre public quand même là. J'aime bien. La conscience écologique fait son bout de chemin, me dit Mike Fly Show, j'espère que tu vas bien, mais il y a encore beaucoup à faire. Merci, merci CPT Pantoufle. Faire pipi sur les arbres, c'est très bon pour les arbres fruitiers. Ok, je ne sais pas. Je n'ai pas d'arbres fruitiers dans mon salon à Paris. Samuel Urgent est hors sujet. Tu la mets quand la revue de God of War? Bah normalement, à partir de 13h tous les jours, le replay YouTube, il est posté par Mathieu. Normalement, c'est pas le cas. Yeah. Comment ça? C'est quoi cette discrimination? Attends, quelqu'un dans le chat me dit. Attends. Oui, il y a des JL. Même, donc, public un peu différent, méfie-toi. Pardon, mais moi, les JL, je les aime. Hein. Job life. Ah donc, lisons aussi cette petite interview. J'ai un peu le temps, je suis avec vous jusqu'à 16h45, quoi, ça va. On va prendre le temps hein, ce samedi, moi. C'est interview d'une pédopsychiatre qui parle de l'éco-anxiété. Alors ça, c'est très important aussi. Hein. Laëlia, c'est joli, Laëlia. Laëlia Benoît, pédopsychiatre, conseille aux parents de parler de leur engagement écologique, mais de manière positive. Faut pas créer trop de non plus d'éco-anxiété chez les plus jeunes. Hein. La Croix lui demande, vous avez mené une vaste étude internationale pour mesurer l'impact du changement climatique sur la santé mentale des enfants et des ados. Les jeunes sont-ils très touchés par l'éco-anxiété? Oui, clairement, répond-elle. On le constate dès qu'on peut leur poser des questions, c'est-à-dire vers l'âge de 15 ans. Avant, on n'a pas autant de chiffres parce qu'il est difficile d'avoir de grandes populations et d'obtenir des accords. Dans mon étude où j'ai inclus les enfants âgés de 7 ans et plus, ils disent qu'ils sont préoccupés par ces sujets. Ah, c'est un JL qui faisait les blagues? Ah, c'était un job live qui faisait les blagues? J'avais pas compris. Pardon, hein, c'est ma team e-sport préférée, moi. Les petits sont conscients des dégâts causés par les humains sur la planète et cela les touche. Question de la Croix, vous avez interrogé des centaines de jeunes en France, aux États-Unis, au Brésil. Qu'est-ce qui les affecte le plus selon l'âge? Je dirais l'acné, moi, non? L'acné, les boutons, non? Je dirais. Voilà. Ah bah non. Les plus jeunes sont particulièrement sensibles au sort des animaux. À partir de 10 ans, ils sont attristés de voir l'inaction des humains ou les mauvais choix qui leur sont faits. Mais ce qui ressort aussi de l'étude, c'est que cela ne les empêche pas de continuer à vivre leur vie d'enfant. Les adolescents, ceux qui ont des boutons là, ont davantage conscience des systèmes géopolitiques et des enjeux à grande échelle. Oula, ben non. Ils se la racontent un peu. Hein. Ils ressentent une forte amertume vis-à-vis des personnes en position de pouvoir. Oui, en même temps, c'est mérité, hein. Une autre étude publiée dans The Lancet montre d'ailleurs que l'éco-anxiété chez les 15-25 ans est fortement liée au sentiment d'être trahi par les gouvernements. Ça va les politiques sinon? Ce n'est pas seulement le réchauffement climatique qui inquiète, mais aussi l'inaction collective et l'impression que la situation n'est pas prise au sérieux. Et ben moi, président en 2027, j'agirai là-dessus. C'est l'un de mes engagements. Moi, président 2027, je m'engagerai là-dessus. J'interdirai l'acné. Fini les boutons. Avec moi, les ados auront tous la police. En deux mots. Parce que si tu dis les ados auront tous la police en un mot, ça nous emmène sur un autre programme qui n'est pas le mien. Comment les enfants s'informent-ils sur le sujet, demande la Croix à la pédopsychiatre. L'école joue un rôle central. En France, elle fournit un socle de connaissances communs adapté à l'âge. Dès 7-8 ans, les enfants savent qu'il faut éviter la pollution, adopter les gestes pour la planète. L'étude a montré que même lorsque les parents avaient des connaissances en la matière, ils ne parlaient pas du changement climatique à la maison. C'est vrai que je ne leur en parle pas trop, mes petits choux, moi. Au Brésil, où les enfants les plus pauvres n'ont pas accès à une école de qualité, ça c'est vrai, certains ne savaient même pas ce qu'était le changement climatique. Pourquoi les parents n'en parlent pas à leurs enfants? Craignent-ils de transmettre leur éco-anxiété? Oui, les parents parlent très peu du sujet à leurs enfants, par peur de les inquiéter. Résultat, certains nous disaient que leurs parents ne s'intéressaient pas du tout à l'environnement, alors même que ces parents faisaient des choix très écologiques en matière d'alimentation, de transport, de consommation. Les enfants ne font pas le lien s'il n'y a pas verbalisation. Ils peuvent alors se sentir seuls et penser que le sujet est tabou. C'est vachement intéressant. Que recommandez-vous aux parents? Je leur conseille... Bah, je vais écouter ça, moi. Parce que moi, je leur parle pas trop de ça. je leur conseille de parler de ce qu'ils font et de le faire surtout de manière positive. Ah, bah, je vais leur parler du fait que je prends beaucoup le train. Plutôt que de dire je composte, sinon tout va être brûlé, les gaz vont réchauffer la planète, mieux vaut expliquer, je composte parce que ça nourrit la terre et aide les plantes à pousser. L'information est la même et le message est porteur, et plus porteur et rassurant. Comment aider un jeune qui souffre d'éco-anxiété? Il faut déjà commencer par en parler avec lui. Il est important de reconnaître que la situation est inquiétante, même si c'est une vérité difficile, et de lui permettre de verbaliser ses émotions en lui disant que ce qu'il ressent est normal et même sain, car cela montre qu'il est sensible au monde qui l'entoure. Il faut ensuite lui proposer des actions positives adaptées. Les initiatives environnementales fonctionnent très bien à l'échelle de la famille, de l'école, du quartier, pour qu'on se sente acteur, qu'on se sente en capacité de faire. Quel que soit l'âge, l'action collective est toujours bénéfique. Les études montrent que lorsque les gens passent à l'action ensemble, leur éco-anxiété diminue car ils se sentent utiles et entourés. Mais il peut arriver aussi que l'éco-anxiété, qui n'est pas une maladie, masque d'autres difficultés chez l'enfant et dans ce cas, une consultation chez un psychologue est nécessaire. Madame Laëlia Benoît, bravo, parce que je trouve ça extrêmement intéressant ce que vous dites. Je vous lis. Pardon, je rire. Tu m'as fait rire. Il y a Ama et Camille qui m'a dit « Perso, la montée du fascisme a beaucoup soigné mon éco-anxiété. » T'as une anxiété qui a chassé une autre, c'est ça? Je bosse dans le domaine avec des jeunes, me dit Fred. Bravo Fred déjà. Et l'éco-anxiété disparaît dès le premier arbre planté. L'action contrecarre le sentiment d'impuissance. Merci Roms. J'ai 26 ans, je n'ai aucun souvenir de primaire, collège où le sujet est évoqué. Faudrait que je demande à mes enfants. Merci Cusaria. Faudrait que je demande à mes enfants s'ils en parlent à l'école. Ouais, l'article est cool. Ah, c'est La Croix. Hein. C'est plus. J'adore ce journal, moi. Il y a de beaux messages dans ce chat, c'est inspirant, me dit Chino. Ah bah, communauté de fous, hein, de goth. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Les mecs, ils m'ont hein, ça m'a regardé 7h30 sur God of War hier soir. Quoi. Donc. Et pauvre, j'étais épuisé. Hein. Intéressant. Merci, La Croix. Allez, je vous emmène à Rennes. Allez. Bon, favoritisme, hein, c'est ma ville d'origine. Je suis né dans cette belle ville bretonne hein, jusqu'à mes 18 ans. Ah, j'y vais un peu moins, même si j'ai encore une partie de ma famille là-bas. Et puis, on a marre de l'humidité aussi. Non, blague à part, on a un article dans Le Monde sur Rennes, mais en fait, qui nous parle de la France entière, parce qu'en fait, Rennes a juste pris un petit peu d'avance sur un truc qui va s'imposer à toutes les villes en France d'ici le 31 décembre 2026. Rennes, la ville des corridas, écrivain, j'ai pas la ref là. Ouais, le marathon vert là-bas, ouais, j'ai fait les deux premières éditions, j'ai pas trouvé ça fou, moi, le marathon vert. Là. J'espère que ça a changé. Tu y es né jusqu'à tes 18 ans, l'accouchement a été long. Ouais, ma maman n'en pouvait plus. Hein. Mais du coup, aussitôt né, j'ai passé le bac, du coup, pour pas prendre trop de retard, quoi. Enfin, j'ai révisé, mais intra-utéro, quoi. Ah, arène. Corrida, arène. Ah, putain, je l'avais pas. Ah ouais, arène. Ok, je l'avais pas. Ok, ils sont forts, ils sont très forts. Qu'est-ce qui se passe à Rennes? À Rennes, des places de parking cèdent la place aux piétons. D'ici au 31 décembre 2026, donc c'est pour tout le monde, hein, toutes les villes de France devront avoir supprimé les places de stationnement situées à moins de 5 mètres des passages piétons. Pourquoi? Je vais vous expliquer. À Rennes, le chantier a débuté dès 2022. Mais c'est ça, les Bretons, les Rennais, ils sont très forts, ils sont incroyables. Eh oui, c'est la Bretagne, ça. Eh oui. Ça a commencé en 2022. Rue Ernest Renan, je connais ça. Dans le centre de Rennes, les jardinières de végétation basse ont remplacé les voitures stationnées. À 1 km de là, au 80 de l'avenue Aristide Briand, je connais. Ce sont des arceaux à vélo qui occupent l'espace autrefois dévolu au stationnement motorisé. Dans la capitale bretonne, la transformation est en marche depuis 2022. La ville adapte ses rues à une exigence légale devenue urgente, supprimer toutes les places de parking situées à moins de 5 mètres en amont des passages piétons, conformément à la loi d'orientation des mobilités, adoptée en décembre 2019, afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée. En gros, c'est pour que les piétons voient mieux les voitures arriver en virant les voitures collées au passage piéton. Ah, c'est pas mal, ça. Aucun emplacement de stationnement ne pourra donc être aménagé sur la chaussée 5 mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé au cycle, au vélo. Ça me semble bien. C'est l'article L118-5-1 du Code de la voirie routière, adopté suite à cette loi. El Giganto me dit le nombre de piétons et de cyclistes qui se trouvaient renversés, voire tués dans ces circonstances, par manque de visibilité, mais oui. Et puis encore plus pour les petits. Alors, les petits, vous pensez aux enfants, hein, qui, tu vois, dont la visibilité est cachée par les véhicules stationnés. Mais les petits, les adultes petits aussi. Moi, j'ai une pensée pour tous les adultes petits. J'en connais personnellement un qui est tout petit, qui n'est pas très grand. Bah, il est très content. Cette loi vient renforcer une décision qui avait été prise en 2015. Rappelle Valérie Faucheux. Valérie Faucheux, maire adjointe à Rennes chargée des mobilités. Hein, le code de la route interdisait déjà le stationnement à 5 mètres des passages piétons, mais il n'avait pas été fait obligation aux collectivités de supprimer ces places. Résultat, tant que la place existait, les individus l'utilisaient. Ah bah oui. Oui, et puis les personnes en fauteuil, vous avez raison aussi. Les enjeux sont d'abord sécuritaires. Aujourd'hui, avec des SUV aux carrosseries assez hautes, il est évident qu'un enfant ou une personne de petite taille, comme Samuel Etienne par exemple, dit le journal, ou une personne handicapée qui traverse n'est pas visible par l'automobiliste. Le centre d'études et d'expertise sur les risques. Ah oui, c'est. Oui. Il faut. Ah oui, c'est pour améliorer la. C'est pour que le piéton voit mieux le véhicule qui arrive, mais c'est pour que le véhicule qui arrive voit mieux le piéton. Bah oui, je suis bête. C'est les deux. Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement qui accompagne les collectivités estime que s'arrêter ou stationner à moins de 5 mètres en amont d'un passage piéton réduit la co-visibilité entre conducteurs de véhicules et piétons. Selon cet établissement public, plus d'un tiers des piétons écrasés le sont sur ces marquages au sol, sur les passages piétons.
Attends. Je vais remonter le chat
pour voir. Bien sûr, ceux qui, au nom de la sainte bagnole, auront critiqué cette loi. Alors, parce que le passage piéton, c'est censé être un sanctuaire pour les piétons quand même. Hein. Alors, je vous cherche. Peut-être que vous n'existez pas, hein. Non, j'en trouve pas en vrai. Ah, non, il y a pas. J'ai pas de fou de la bagnole. Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Les vélos ne respectent pas les passages piétons non plus, pas que les bagnoles. C'est vrai. Il y a beaucoup de cyclistes qui sont pas très urbains, pas très citoyens. Bon, après. Un vélo dans la gueule, ça fait moins qu'un Range Rover dans le front d'un enfant de 5 ans. Hein. Quand même, si je puis me permettre. Mais oui, les vélos, faites un effort, bordel, c'est pas possible. Vous êtes vraiment des voyous. Hein. Ah, merci Rod. Je suis amateur d'automobile, j'aime la bagnole. Mais cette loi, c'est juste du bon sens. Il faudrait des places ailleurs. Beaucoup de villes, c'est galère. Tu as raison. Oui, j'ai une voiture, moi. Bon, à Paris, t'as pas besoin vraiment d'une bagnole. J'ai une voiture un peu de dépannage, une petite voiture qui me sert quand vraiment il n'y a pas de solution de train pour des raisons de destination ou d'horaire. Voilà. Mais c'est une voiture qui roule pas beaucoup, quoi. Voilà, ou pour des tournages de taf, quoi. C'est un bon, mais c'est un bon gros SUV, ta voiture, rassure-nous. Bah, bien sûr. C'est un SUV chinois. C'est un SUV chinois. Alors, au niveau de la propulsion, au niveau de l'énergie, j'ai beaucoup hésité. Vous savez, électrique, thermique, hybride, hybride rechargeable. Voilà. Donc, j'ai pris charbon, moi. Moi, j'ai pris charbon. Alors, en termes de CO2, c'était pas fou, parce que déjà, chinois, le véhicule a été construit il y a super longtemps, super loin, faut le faire venir et tout. Puis, charbon, j'étais sceptique, j'ai dit au vendeur, mais vous êtes sûr, chinois, en termes de bilan carbone, charbon. Oui, mais, ah oui, mais monsieur Étienne, maintenant, il y a des filtres et tout, c'est incroyable. C'est plus propre qu'une voiture électrique, qui m'a dit. Incroyable, ce qu'on fait maintenant. Il y a un monde où il y a des gens qui vont prendre premier degré et qui vont poster ce clip sur les réseaux. Il y a un monde. Attendons. D'ici quelques heures, ça devrait partir sur Twitter. Voilà, donc je reprends mon propos. Selon cet établissement public, plus d'un tiers des piétons écrasés le sont sur des marquages au sol. Sur les 4452 passages piétons rennais, 540 nécessitaient une mise aux normes. La municipalité a établi un calendrier de modification dès 2022. Voilà. Quartier par quartier, la ville installe des balisettes provisoires. Ah, c'est une petite borne en plastique, là. Dans les rues devant être refaites à court terme, des petits massifs de végétation rase pour les voies les plus minérales, des arceaux à vélo ailleurs, plébiscités par les habitants et les commerçants dans cette ville où 43% des personnes se déplacent majoritairement à pied. Les Rennais marchent beaucoup. Pour l'heure, 308 passages ont été traités, 58% du total. Il nous en reste 232 à mettre en ordre. Nous aurons transformé 98% d'entre eux à la fin de l'année prochaine. Mais le chantier dépasse largement Rennes. À Nantes, la métropole consacre 5 millions d'euros à la mise en conformité de 2500 passages piétons. L'obligation de réaménager les abords des passages piétons favorise ainsi une reconquête des espaces. Estime le CEREMA, c'est une opportunité pour des villes, des villages plus inclusifs, plus sûrs, plus accueillants, plus adaptés au mode actif. Merci Raphaël Baldos, correspondant à Rennes, du journal de la Croix. Bravo Rennes. Lusaxel très en forme. Hein. Il faut dire qu'ils ont plus le permis, les Rennais, à cause de l'alcool, c'est pour ça qu'ils marchent beaucoup. Ouais, facile celle-là. Mon mari et moi, nous n'avons qu'une seule voiture pour deux, me dit Séverine. Il y a des ménages dans lesquels chaque membre de la famille a sa propre voiture. Je ne comprends pas pourquoi, c'est totalement inutile et c'est un non-sens écologique. Oui, surtout quand c'est un SUV au charbon. Depuis 4 ans, j'ai déjà demandé à la mairie d'installer un équipement en amont du passage piéton devant chez moi, car peu de visibilité, c'est efficace, me dit Shinji Panda. Bah, la loi est pour toi, hein. J'ai du mal avec les transports en commun, beaucoup d'incivilité, beaucoup de contraintes avec la voiture, mais je me sens moins anxieuse, me dit Nukia. Quand on vit en périphérie des villes pour se loger, hein, le coût de l'immobilier, me dit South Dark, la voiture est obligatoire pour chaque personne qui travaille. Salut Tramson. Tramson. The 7005. On n'a pas besoin de se mettre en plein milieu de la voie pour voir une voiture arriver si un camion cache. Faut juste être attentif et regarder plus loin que son portable. Enfin les piétons. Enfin les piétons, il a raison. La personne qui a dit ça là. Arrêtez de vous faire écraser un moment. Hein? Arrêtez de vous jeter sous les roues des SUV. Oh! Mais c'est vrai, plutôt que prendre des mesures là de je sais pas quoi, de gauchistes là. Faites attention, enfin! Notamment les personnes âgées, là! Les personnes en situation de handicap et les enfants, faites des efforts, enfin!
Oh là là, c'est dingue.
C'est assez pertinent comme argument. Merci beaucoup.
Hein, je suis obligé de faire toujours le pied sur le frein en ville là. C'est couillon là. Hein.
T'as deux doigts de nous proposer d'interdire les piétons de ville de la ville. Hein.
Qu'est-ce qu'ils font dehors d'abord? Qu'est-ce qu'ils font dehors d'abord, hein? Ha, les enfants. Déjà. Ha, hein, ferait mieux de, je sais pas moi, je sais pas où, mais et les personnes âgées, c'est pareil. Hein, faites attention un peu quand vous traversez. Oui, comme dit Genesa, sur ma route. Hein, ils peuvent pas traverser la route en voiture comme tout le monde.
C'était assez intéressant. Merci beaucoup pour ton apport à ce débat-là. Tu nous as
un peu aidé. Allez, on change d'actu. On reste dans les infos positives. avec Michelin. Michelin qui a rendu de la thune. Michelin qui a rendu de la thune à l'État français alors qu'il n'était pas obligé. Alors certains disent, dis donc, les autres entreprises devraient peut-être faire comme Michelin. De quoi s'agit-il ? Michelin a restitué à l'État, via un don, parce que rien ne lui obligeait, donc c'était un don du coup, des aides sujettes à polémique. En faisant don de 4,3 millions d'euros à l'État, le groupe Michelin souhaite rembourser un crédit d'impôt destiné à une usine française qui a depuis fermé. Un geste inhabituel, comprenez, personne d'autre ne le fait, qui s'inscrit dans un contexte de remise en cause des aides publiques accordées aux entreprises. Et on revient sur le débat sur les aides accordées aux entreprises, notamment aux grosses entreprises françaises. L'État a donc eu aussi un cadeau de Noël, un chèque d'une valeur de 4,3 millions d'euros qui est inscrit au journal officiel du 26 décembre dernier. Là, vous avez le petit texte, etc. Là, c'est un don. Hein, le geste est d'autant plus notable qu'il est rare. Quand on regarde le journal officiel, on trouve moins de 15 donations à l'État ces 20 dernières années. Voilà. Si vous regardez sur 15 ans, voilà, non, sur 20 ans, vous avez 15 personnes ou personnes morales, physiques ou morales, qu'on fait des dons de l'argent à l'État. C'est-à-dire que, je sais pas, Origi, par exemple, demain, tu te réveilles, tu dis j'ai envie de donner de l'argent à l'État. Bon, bah, vous n'êtes pas très nombreux. En 20 ans, il y a eu 15 qui ont fait ça. En général, l'État, il te prend de l'argent. C'est rare que tu lèves le doigt en disant « Hey, je voudrais bien vous en donner un petit peu plus. » Bon, il y en a eu 15 en 20 ans. S'ils donnent 4,3 millions, c'est qu'ils doivent plus. Freden, ouais, mais enfin, ce qui est intéressant avec Michelin, c'est que c'est le seul à faire ça. C'est-à-dire que les autres, ils prennent les millions, ils les gardent et ils les rendent pas, quoi. Donc à un moment, on va essayer de doser un petit peu. C'est pas inintéressant quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le geste est d'autant plus notable qu'il est rare. On recense au JO moins de 15 donations à l'État ces 20 dernières années. Alors, pourquoi cet élan de générosité un peu suspect de la part du fabricant de pneus français? Ces 4,3 millions d'euros correspondent à des crédits d'impôt perçus par Michelin au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, dispositif qui a été en vigueur en France de 2013 à 2021. Explique le groupe. Accordée en 2015 à Michelin, cette somme devait notamment financer la rénovation d'ateliers et l'acquisition de 8 machines industrielles pour le site de La Roche-sur-Yon. Okay. Mais après de longs mois d'incertitude, la fermeture définitive du site a finalement été actée en 2020, voilà, et les machines transférées vers d'autres sites industriels du groupe. Voilà. En Espagne et en Europe de l'Est. L'hiver dernier, la découverte de cette aide a suscité de nombreuses critiques de la sphère politique dans un contexte budgétaire extrêmement tendu. Bon, il y a des gens à un moment qui se sont rendus compte de ça et qui ont critiqué Michelin. C'est, évidemment, c'est pas Michelin qui a dit « Eh, au fait, la thune, là, on devrait la rendre parce que... » Bon, il y a des gens qui se sont rendus compte et qui l'ont dit. Ça a créé un débat. Sauf que Michelin n'est pas la seule entreprise dans ce cas et en général, ça fait le dos rond et ça garde la thunasse. À l'époque, il y a une commission d'enquête sénatoriale qui a été mise en place après l'annonce de plusieurs plans de réduction d'effectifs dans de grandes entreprises, notamment chez Michelin, avec pour objectif de mesurer l'ampleur des aides publiques dont elles bénéficient, de s'interroger sur la façon dont elles sont suivies et évaluées. Je spoil, il n'y a pas tellement de suivi, il n'y a pas tellement d'évaluation, quoi. Lors de l'audition de Florent Mengo, le président directeur général de Michelin, le sénateur communiste et rapporteur de la commission, Fabien Gay, n'avait pas mâché ces mots. Ne pensez-vous pas que l'argent public français doit financer des investissements en France ? Ces machines achetées grâce à l'argent du contribuable français n'auraient-elles pas pu être redéployées dans un autre site industriel en France, alors que vous avez fait le choix de les envoyer ailleurs en Europe ? L'entreprise Michelin, interpellée par certains, notamment par cet élu communiste, avait alors répondu et assuré vouloir rembourser à l'État le montant de ce crédit d'impôt dans une perspective éthique. Voilà. Bon, ils s'étaient fait attraper, ils s'étaient fait dénoncer, et ils ont dit, bon, on va rendre la thune. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'entreprises dans le cas de Michelin, mais à ce jour, les autres, la thune, elles la gardent. Donc c'est désormais chose faite, l'argent a été rendu, bien que le CICE n'ait jamais été assorti de conditionnalité ni d'obligation d'affectation ou de maintien d'activité, Michelin a fait le choix par souci de responsabilité de restituer à l'État le gain correspondant à ses crédits d'impôt. Mais la phrase, elle est folle. Bien que le CICE n'ait jamais été assorti de conditionnalité ni d'obligation d'affectation ou de maintien d'activité. Vous vous rendez compte, ça veut dire que dans ce CICE, on filait de la thune, et parfois des montants de fous à des entreprises, et parfois des grandes entreprises, avec aucune condition restrictive. Donc aucune obligation de rendre l'argent si jamais cet argent il partait notamment à l'étranger. Quoi. Et d'ailleurs, Michelin souligne le caractère strictement volontaire de la démarche, parce que rien dans la loi ne l'obligeait à rendre cet argent. Aucun dispositif de remboursement de l'aide n'étant prévu, l'entreprise a donc eu recours au don, ça n'est pas un remboursement. Michelin a été obligé de faire un don, puisque la loi ne prévoyait pas un remboursement éventuel. Un don qui ne donnera lieu à aucun avantage fiscal, explique Bercy d'ailleurs. Si à l'échelle des 130 milliards d'euros de déficit budgétaire, la somme de 4 millions d'euros peut paraître dérisoire, elle fait office de symbole, celui de la remise en question des aides sans contrepartie de l'État à la sphère privée. Il est là le débat. Bien joué Macron. Alors je crois que c'est François Hollande qui avait mis en place ça. Selon la commission sénatoriale, les aides d'État aux entreprises ont atteint, on en a beaucoup parlé dans cette revue de presse ici, 211 milliards d'euros pour la seule année 2023. Parmi les plus gros bénéficiaires figurent ST Microelectronics, 487 millions d'euros, ArcelorMittal, 298 millions, LVMH, 275 millions d'euros. De son côté, Michelin avait indiqué avoir touché plus de 80 millions d'euros en 2023, 40 millions au titre du crédit impôt recherche et 43 millions en aides diverses à l'emploi. Voilà. Manifestement, il y a un souci dans la manière dont cet argent est filé aux entreprises. Le comptable de ma boîte, me dit Nelio, avait halluciné de ce dispositif. Jamais vu un truc aussi peu réglementé, de l'argent gratuit. Néono, tu veux toucher 500 balles de RSA parce que t'as pas de boulot, tu dois justifier 50 000 trucs, mais si tu touches 100 millions de l'État, là, pas besoin de te justifier. Alors, sans remettre en cause forcément les aides aux entreprises pour soutenir la croissance, pour soutenir l'emploi, notamment, à minima, peut-être qu'on peut se dire qu'il y a un contrôle dans un suivi à mettre en place pour vérifier que ces fonds sont correctement utilisés. Chacun me dit, il y a un dossier à remplir pour toucher le CIR, c'est ce que tu dis ? Mais il faut prouver avant, mais pas après. D'accord. Sans compter le fait que Macron a transformé le CICE, me dit Escataz, en simple allègement de charges. Okay. Donc là, il n'y a même plus de dossier à remplir. Du coup, il n'y a plus rien à prouver. Alors, si je comprends bien, si je comprends bien. Ok. Et du coup, on a un édito dans l'Humanité qui se félicite de tout ça. Parce qu'on se rappelle que c'est un élu communiste qui avait été un des premiers à dénoncer l'histoire de Michelin. L'Humanité, c'est un journal communiste. Et vous avez Laurent Mouloud qui se félicite de ça. Et qui écrit « Michelin ne s'est pas dégonflé dans un arrêté paru vendredi. Au JO, le groupe de pneumatiques a donc remboursé un peu plus de 4 millions d'euros à l'État. Somme qui correspond au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi que l'entreprise avait perçu pour l'achat, on a raconté l'histoire à l'instant, de 8 machines-outils destinées au site de La Roche-sur-Yon, mais dont 6 ont été envoyés en Espagne, en Roumanie, avant que l'usine de Vendée ferme ses portes. Ce détournement d'argent public avait été souligné lors de la commission d'enquête parlementaire menée en tant que rapporteur par le sénateur communiste et directeur de l'UMA d'ailleurs, Fabien Gay. À l'époque, le patron de Michelin, Florent Mengo, ne pouvant nier l'évidence, avait estimé pas anormal que la société en bourse il a tenu parole. Ce geste n'est pas que symbolique, il crée un précédent, écrit Laurent Mouloud, qui doit servir d'électrochoc. Les aides versées aux entreprises, 211 milliards d'euros en 2023, ça n'est pas rien. Hein. Bayrou, quand il voulait faire des économies de fou, là, sur le budget, il cherchait quoi, 40 milliards, je sais plus, 40 milliards. C'est 40 milliards les économies que voulait faire Bayrou, là. C'est ça, non? Je me trompe pas. Le chiffre qui paraissait si fou, là. Les aides versées aux entreprises, c'est 211 milliards en 2023. C'est le premier poste budgétaire de l'État. Censées soutenir l'emploi et l'investissement, elles sont pourtant distribuées sans contrepartie. Et s'évaporent pour une part en dividendes, rachat d'actions, voire paradoxe suprême, en plan de licenciement et en fermeture de site. Ce scandale discret mine la justice sociale et alimente la défiance. Derrière chaque euro public, un citoyen paie et attend que cet argent serve le bien commun, pas la destruction industrielle et la rente de quelques-uns. Les entreprises ne peuvent être exonérées de comptes à rendre. C'est même pas l'Humanité, qui est un journal très à gauche, ne remet même pas forcément en question les aides aux entreprises. Il dit peut-être qu'il faut juste vérifier l'utilisation de ces fonds, quoi. Les entreprises ne peuvent être exonérées de comptes à rendre et des efforts que l'État impose chaque jour au reste des citoyens et des travailleurs. La constitutionnalité des aides publiques est une nécessité démocratique, éthique, sociale, économique. Et le cas Michelin montre que cela est possible. Mais l'exemplarité ne peut pas reposer sur la seule bonne volonté des entreprises. Il revient à l'État d'instaurer des règles par la loi, lier ces aides à des engagements sociaux, environnementaux, contrôler leur usage, exiger leur remboursement en cas de tricherie. Cet encadrement, loin de disqualifier le soutien aux entreprises, permettra de le légitimer aux yeux de tous et surtout de le rendre efficient. C'est intéressant parce qu'on a quand même un journal communiste qui, dans cet édito, ne remet pas en question l'aide aux entreprises, hein, limite le juge nécessaire, mais estime juste qu'il faut être, il faut que ce soit encadré, quoi. C'est pas inintéressant. J'ai mis ça comme une bonne nouvelle. Le CIR, cette vaste blague, me dit Dave Bowman, c'est juste du déclaratif, on peut y loger ce qu'on veut, même si ce n'est pas vraiment de l'innovation. Le CIR, Crédit Impôt Recherche, me dit FireAce, on n'en parle pas assez, mais beaucoup d'entreprises de services numériques qui sous-traitent pour des entreprises plus importantes en abusent et s'en servent clairement comme source de revenus principale, alors que cet argent ne finance pas réellement de la recherche. Ok. Et il y a des boîtes de conseil, me dit Elias, qui aident les entreprises à faire un dossier pour le CIR sur du bullshit. La Square of Pie me dit le CIR qui sert aussi à payer les doctorants de l'entreprise. Pour ça, pour le coup, c'est bien ça, non? Alors, je suis avec vous jusqu'à... On a le temps. Est-ce que je ne me ferai pas un petit café? Vous m'autorisez à me faire un petit café? Je suis avec vous jusqu'à 16h30. Après, j'emmène les enfants voir un spectacle de lumière. Un petit café? Ok. Je vous montre le... Bah, le sujet suivant, c'est la fête sans alcool. Voilà. Un concept assez nouveau pour moi, mais que j'aimerais partager avec vous. La fête sans alcool. Moi, je vais me chercher un café. Pas bon, le café, me dit Shade, oui, mais enfin, c'est meilleur que le whisky coca quand même. Voilà, je me fais un petit café et puis je vous lis cet article sur la fête sans alcool. Ok, amis qui m'écoutaient en podcast, on est pour 30 secondes. Qui veut un café? Café au lait,
thé,
menthe pastille, thé au jasmin. Ok, je suis en train de prendre les commandes. Coffee time, cappuccino. Ok.
Alors, connaissez-vous un streamer qui écoute plus sa communauté que moi? À l'instant, quelqu'un me disait dans le chat, c'est pas bon le café. Eh bien, j'entends, eh bien, j'écoute. Voilà. Du coup, je me suis pris un Red Bull. Light. Merci de ton conseil. Grâce à toi, ma santé va être préservée. Ah. Un jour, on va me voir vivre des siècles, des millénaires. Je vais vivre très vieux, moi. Et les gens diront, mais oui, mais c'est son chat, sa communauté qui faisait très attention à lui, qui donnait des conseils de santé comme ça tout le temps. Il arrête le café, du coup, il s'est mis au Red Bull. C'est comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre sollicitude. Alors, puisqu'on parle de liquide et de boisson, un dossier dans Le Parisien sur le fait que de plus en plus de jeunes font la fête sans alcool. Et la consommation d'alcool, elle baisse en France. Hein. Elle baisse, les chiffres sont là et c'est positif. La consommation d'alcool, elle baisse en France pour la population, hein, pour les adultes et pour les plus jeunes aussi. La fête est plus folle sans alcool. Bon, ça après c'est très subjectif bien sûr. Voilà, de plus en plus de jeunes ne se reconnaissent pas dans les clichés festifs liés aux boissons alcoolisées, c'est un dossier du Parisien, et leur préfèrent la sobriété, ce qui ne les empêche pas de s'amuser. Bon, moi, en connaissance de cause, je vous parle de ça, puisque j'ai été un gros fêtard. J'ai consacré un certain nombre d'années de ma vie à faire que ça. La fête, je l'ai faite, en long, en large, en travers, et avec beaucoup d'excès. Voilà, il faut que jeunesse se passe, mais je regrette un petit peu ces excès. J'étais très bon à l'époque, faut dire qu'on était un peu tous bon, bref, il y avait un modèle voilà, en Bretagne ça, on y allait fort quoi, mais bon, mais du coup ce sera à refaire, eh ben je ferai la fête, autant c'est bien la fête, mais je l'arroserai pas ou pas comme ça quoi. Donc les plus jeunes d'entre vous, si vous pouviez éviter de faire les mêmes bêtises que vos aînés, si vous pouviez éviter de prendre tout produit qui vient vous niquer le cerveau, tout produit qui vient vous faire perdre le contrôle, en vrai le corps humain et le cerveau humain sont des machines incroyables, ne prenez rien, aucun psychotrope, ne prenez rien en fait qui va vous aucun paradis artificiel quoi. Croyez-en une vieille personne qui a bien abusé de la vie. Lisons. Un videur a déjà une piste de danse bondée ce samedi décembre au Badaboum, discothèque du 11e arrondissement de Paris. L'ambiance est à la fête. Donc j'apprends que dans le 11e arrondissement de Paris, il y a une discothèque qui s'appelle le Badaboum. Et là, c'est incroyable. Il n'est que 19h30, mais Ileana, 24 ans, balance déjà la tête en rythme bière sans alcool à la main. Depuis quelques années, avant chaque verre, elle s'interroge, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Ah oui, pardon, je parlais d'alcool, de psychotropes, de tout ce qui est drogue et tout, ne prenez pas ça. Je rajoute ces news, bien sûr, aussi, en termes de chaîne d'infos en continu. C'est très, très mauvais aussi pour le cerveau. Pas d'excès, des choses comme ça qui sont très mauvaises pour votre intellect. Depuis chaque année, avant chaque verre, cette jeune femme s'interroge. Est-ce que j'en ai vraiment envie ? Ce soir, pas besoin de se poser la question, les softs règnent sans partage. Margot et Céline commencent justement par se prendre un verre au bar, séduites par l'offre inhabituellement variée de soft kombucha pour l'une, IPA soda, je ne sais pas comment on dit pour l'autre. Pour les deux trentenaires, danser ne rime pas forcément avec s'enivrer. À l'initiative de cette sober party, fête sobre, Maxime Muscat, chantre de la sobriété joyeuse. Avec cet événement, l'humoriste souhaite offrir un espace sans tentation aux plus dépendants. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, quand t'es un petit peu accro à la... Ouais, ok. Et proposer une soirée digne de ce nom à ceux qui ne boivent pas, et ils sont de plus en plus nombreux. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, la consommation d'alcool a continué à reculer en France l'an dernier. Les jeunes de 16 ans, écoutez ça,
Est-ce que ça n'est pas une bonne nouvelle? Les jeunes de 16 ans en France sont même parmi les meilleurs élèves au sein de l'Union européenne, d'après une enquête de l'European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. On est des champions, mesdames et messieurs. Un changement de comportement qui accompagne les nouvelles habitudes de consommation, le dernier baromètre Moderato, montre qu'un Français sur cinq se déclarait consommateur de vin sans alcool en 2025. Victor lui préfère la version soft de la bière à siroter en mangeant des cacahuètes, le club maté ou le kéfir qu'il fait maison. Eh ben, ce mercredi soir de décembre à Rennes, il faudra qu'on m'explique à un moment pourquoi les médias ont ce tropisme, cette fascination, pour ne pas dire cette obsession pour la ville de Rennes. Il va falloir nous calmer les Bretons là, ce lobby, hein, c'est fou ça. Donc on est à Rennes donc là, où Victor, pour accompagner la raclette qu'il a organisée avec ses colocataires et des copains, a opté pour du jus de banane et du kombucha. Ah, je sais pourquoi ils ont choisi Rennes. Ouais, parce que les gens qui boivent pas d'alcool ici. Je l'ai. Ce photographe de 27 ans n'a pas bu une goutte d'alcool depuis 2 ans et demi, donc il y a eu avant l'alcool. Un choix de vie lié à un constat simple, les soirées arrosées lui offraient moins qu'elles ne lui coûtaient. À l'époque, sa décision n'avait pas laissé de marbre. Elle a suscité de l'étonnement, souvent de l'incompréhension parfois, que Victor met sur le dos d'un mode de vie un peu moins répandu qu'aujourd'hui. Voilà. À force de justification, il comprend aussi que son abstinence met ses interlocuteurs face à leur propre consommation, les force à se questionner. Hein. Et ça, la scène est inimaginable, mais imaginez une grande télévision française, une émission à une heure de grande écoute et un gars qui raconte qu'il boit plus et que la fête peut être très sympa sans alcool. Imaginez le présentateur ou la présentatrice qui lui dit « Ah ouais, mais du coup, vous êtes super, qu'est-ce que pourrait dire cette personne de surréaliste du coup vous êtes super je sais pas, ouais, super chiant par exemple. » Là vous me dites non, c'est pas possible. Ah non, évidemment c'est pas possible, mais voilà, on sort de ce genre de modèle où les gens qui boivent pas d'alcool forcément sont chiants. On pourrait imaginer ça, quoi. Donc je continue. À force de justification, il comprend que son abstinence met ses interlocuteurs face à leur propre consommation, les force à se questionner. Les pics viennent le plus souvent des générations précédentes, voilà. Explique Janelle, 24 ans. Elle s'est déjà vue reprocher de ne pas être marrante. Voilà. Hein, simplement parce qu'elle déclinait un verre. Ah, t'es pas marrante. Hein. La culture de l'alcool est décidément bien ancrée dans les mœurs. Ce n'est pas encore cool de ne pas boire. Confirme les convives du soir. Âgés de 24 à 34 ans, c'est les gars qui mangent de la raclette avec du jus de banane, là. Juliette, la petite amie de Victor, a même remarqué que certains amis sont plus à l'aise lorsqu'elle boit que lorsqu'elle s'abstient de boire. Il est 21h, la petite bande va bientôt passer à table. Qui veut des shots? Comment ça, des shots? Lance l'hôte pour clore l'apéritif. Ah, c'est sans alcool. Un mélange de gingembre, citron et sucre qui fait quoi? Le même effet qu'un vrai Vente Victor. Non, c'est pas vrai. La moitié de l'assistance lève la main, emballée, émoustillé. Comme promis, le liquide titille les papilles et brûle un peu l'œsophage sur le passage parfait pour ouvrir l'appétit. Sur la table, dressée pour neuf, le jus de fruits côtoie le vin rouge. Ce soir, tous ne se privent pas. Ah, il y en a qui boivent un petit peu. Ok. Voilà. Donc Victor, dans le privé, ne sociabilise plus tout à fait comme avant, il sort moins, il quitte les soirées plus tôt et voit ses amis dans un autre cadre. Hein, ça doit jouer au jeu de société, ça, je pense. Hein. Les repas à domicile ont remplacé les verres en terrasse. Comme ce mercredi de décembre, les convives ne partagent que 3 bouteilles de vin. Les joues rougissent plus à cause de la chaleur de l'appareil raclette que les effets de l'alcool. Mais il arrive que Victor se retrouve sur une autre planète lorsque ses amis boivent un peu trop. Bon, là, on a plein de propos tenus par des jeunes gens qui s'interrogent sur leur consommation d'alcool. Il y a une jeune femme, par exemple Juliette, là, qui se questionne beaucoup, elle qui a multiplié les trous noirs après ses soirées d'excès. J'ai connu ça. J'avais perdu en concentration, en éloquence, décrit-elle à propos de ses années passées à Paris. Comme beaucoup de filles de son âge, elle a un temps voulu boire autant que les mecs, une manière de se réapproprier un comportement longtemps masculin qui la mettait en fait plus en danger, juge-t-elle avec le recul.
Ok. Bon, l'article il dit pas grand-chose. Il dit juste que la consommation d'alcool baisse en France et qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'interrogent sur leur consommation d'alcool, voire qui boivent pas du tout. Quoi. Je vous lis maintenant parce que c'est ça qui m'intéresse. Sacrode. Perso, j'ai arrêté de boire depuis 8 mois. Je ne boirai plus avant d'être désintoxiqué de l'ivresse. Pas de l'alcool, mais de l'ivresse. Je connais ça. Je connais Sacrode. J'ai connu ça. Je reboirai quand je n'aurai plus envie de me mettre fin à raide. Ça va être long. J'ai connu ça. J'ai connu ça. Merci Marie Sunito. Merci Frenden. Merci Sugar Harry. Merci Laetitia RD. Merci Rilvain. Merci Asdar. Et bonne année. Mon fils de 4 ans m'a sorti que quand il sera grand, il ne boira jamais l'apéro, mais il boira du café. Ok. Bon, le café, attention. Mais vous trouvez vraiment ça bon l'alcool, genre le goût? Bah Jericho, ouais, il y a de bonnes choses. Hein. Un amateur de bon vin, il va, c'est du plaisir. Hein. Un amateur de moi j'ai été amateur de whisky. Il y a des milliers de whisky différents. Il y en a qui sont très très bons. Mais c'est pas des bons produits, c'est pas des bons produits pour la santé. Comme le dit Sugar, qui lui aussi a dû pêcher comme moi, hein. Le rapport à l'alcool peut vite changer et devenir problématique quand on enchaîne les soirées sans se rendre compte sous couvert de sociabiliser. Noctali, je ne sais pas ce que raconte Noctali, je pense que Noctali est bourré, on l'adore. Noctali écrit incroyable, du Jet 27 mélangé avec du Baileys. Du Jet et du Baileys. C'est-à-dire de la menthe et une crème alcoolisée au café. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vomis, mais c'est pas l'alcool, c'est le goût. Comment ça, Jet Baileys, orgasme très apprécié. Hein, quoi? C'est très bon? Quelle est cette secte? Merci Power Wesh. Joli pseudo. Bon, après, moi, je suis chiant là-dessus, hein, parce que je suis un repenti, quoi. Voilà. Ah, c'est le nom du mélange. Ah, j'avais compris que Jet Baileys favorisait les orgasmes. Non, c'est le nom du cocktail, du shooter. Ça s'appelle l'orgasme. Ah. Oui, je suis devenu chiant, en fait. Ah, ok, je pensais que c'était un truc récréatif, quoi. Je voyais pas trop l'intérêt parce que forcément Jet et Baileys tu mélanges, tu vomis, donc je voyais pas trop le lien avec l'acte sexuel, quoi. Amis en podcast, je vous fais un tout petit peu de bruitage aussi parce que vous n'avez pas le visuel, vous n'avez pas la théâtralité des mains, donc de temps en temps je vous fais des petits bruitages. C'est pour vous, c'est gratuit. Oui. Alors, pour ceux qui se demandaient, j'applaudissais là. Ça, c'est le bruit de l'applaudissement.
Je ne bois pas énormément, me dis pas de sourcils, mais je sais qu'après un verre, j'ai du mal à m'arrêter. Non, puis à un moment, moi je me. Alors, vous allez dire, quelle découverte. Je me suis rendu compte, bon, vous savez que je ne suis pas vraiment très malin, pour dire que je brille par. Pas que ça fonctionne à 1000 à l'heure là-haut, là. Ça ralentit plutôt. Mais je me suis rendu compte, et ça va en étonner plus d'un, et ben quand je bois, et ben je suis encore plus con. Vous voyez ? C'est le jour où je me suis vraiment rendu compte de ça, ben je crois que j'ai arrêté, en fait. En vrai, j'étais plus con, quoi. Mais même après un verre, quoi. Ouais. Ah non, pas mauvais. Non, moi j'ai l'alcool, non, j'ai pas l'alcool mauvais, mais con, quoi. C'est vraiment ça, c'est pas plus malin là-haut, quoi. T'as l'impression d'être malin, mais pour les gens autour de toi sobres, c'est vraiment qu'une impression, quoi. C'est un peu comme quand t'as l'impression de mieux parler anglais quand t'es bourré, quoi. Merci Marmi Marmotte. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a aussi le côté business, puisqu'évidemment, il y a une économie du sans-alcool là-dessus. Bien sûr. Est-ce que t'as pas... Tu devrais essayer Valo Bourré, il y a un monde où tu montes Gold. Ben, en vrai, moi, pour monter sur Valo, en rank, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Ouais. Vraiment. Enfin, dans un cadre légal. Mais boire, non. Boire. Ben non, les gars, je suis en train de vous dire que c'est pas l'idée du siècle. Je vais pas me mettre à boire en streamant, quoi. Mais c'est vrai que je désespère. Là. Alors, autre bonne nouvelle dans cette revue de presse des bonnes nouvelles. Dans ce nouveau rendez-vous du samedi après-midi, tous les samedis après-midi, on passe les nouvelles un peu sympas de l'actualité de la semaine. Nouveau rendez-vous, samedi des bonnes nouvelles. Levez la main, ceux qui... Moi, je lève pas la main. Qui, dans le chat, sont des homards ou des crabes, des tourteaux, des dormeurs, des crustacés, des araignées de mer, des étrilles. Levez la main. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est dans le monde. L'Angleterre va interdire l'ébouillantage des homards et des crabes. Levez la main. Levez la pince, pardon. Excusez-moi. C'est très malaisant ce que je viens de faire. Pardon. Levez la pince. Levez la pince. Cette mesure va s'appliquer d'ici à 2030 aux crustacés, aux mollusques céphalopodes reconnus comme êtres sensibles par la loi anglaise, mesdames et messieurs. On se soucie de la douleur des crustacés. Alors, certains vont se moquer, mais moi je trouve ça intéressant. Pour les fêtes de fin d'année, le homard est prisé par celles et ceux qui bisent sur des produits d'exception et qui en ont les moyens. Mais au Royaume-Uni, le destin de ces crustacés est sur le point de changer. Le ministre de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires Rurales britanniques a annoncé lundi dernier vouloir interdire la pratique culinaire consistant à plonger des homards vivants dans l'eau bouillante. Bon, moi je connais bien, mon papa était poissonnier, hein, j'ai beaucoup vu des crabes, des araignées, des tourteaux, des homards balancés comme ça dans d'immenses faitous remplis d'eau bouillante. Et personne... personne s'inquiétait trop de tout ça, quoi. Et ben c'est fini, en Angleterre. Dans le cadre de sa nouvelle politique sur le bien-être animal, le gouvernement travailliste affirme que l'ébouillantage d'animaux vivants n'est pas une méthode acceptable de mise à mort. Cette interdiction viendrait compléter une loi adoptée par les conservateurs en 2022, l'Animal Welfare Act, reconnaissant que les crustacés décapodes, merci The Deep Blue, crabes, crevettes, homards, langoustes et écrevisses, et les mollusques céphalopodes, pieuvres, sèches et calmars, sont des êtres sensibles. Des êtres sensibles et ressentent la douleur comme les autres animaux. C'est un beau jour pour les homards, Whispy, oui. Tous seront désormais concernés par la future loi. Ce texte faisait suite à la publication d'un épais rapport de la London School of Economics en novembre 2021, dans lequel on a démontré que les crustacés comme les mollusques sont dotés de nocicépteurs, de terminaisons nerveuses permettant de détecter les températures extrêmes ou les blessures mécaniques comme le déchirement. Alors je pense que longtemps on a pensé qu'en fait
ces petites bébêtes-là ne ressentaient pas la douleur, quoi. La loi de 2022 s'est arrêtée à une reconnaissance symbolique. Le gouvernement travailliste actuel veut aller plus loin. D'ici à 2030, le Royaume-Uni rejoindrait ainsi la Suisse, la Norvège, l'Autriche ou la Nouvelle-Zélande, où cette pratique est déjà interdite. Lorsque des animaux conscients sont plongés dans de l'eau bouillante, ils endurent plusieurs minutes de douleur atroce. On rappelle, comme le dit Nuka, que longtemps, on a cru que les bébés ne ressentaient pas la douleur. Ou en tout cas, pas comme nous. Alors aujourd'hui, ça semble fou, mais ça n'est pas si lointain. Lorsque ces animaux conscients sont plongés dans de l'eau bouillante, ils endurent plusieurs minutes de douleur atroce. C'est une torture à totalement évitable, affirme dans un communiqué de presse Ben Sturgeon, qui est vétérinaire et directeur général de l'association. Association quoi ? Crustacine Compassion. Compassion pour les crustacés. Pour Olivier Lebot, professeur de droit public et spécialiste en droit de l'animal et Université d'Aix-Marseille, et qui fait aussi de la modération sur Twitch, hein, puisqu'il s'appelle Olivier Lebot, cette intention d'interdiction est la suite logique de la qualification de l'ensemble des décapodes d'êtres sensibles en 2022. Le critère retenu, la sensibilité, est mesurable scientifiquement. Un animal capable de ressentir de la souffrance doit bénéficier d'un régime protecteur. Indépendamment de l'utilité, de la proximité ou de l'anthropomorphisme. Même en couvrant la marmite, même en s'en détournant, on peut entendre les cognements et claquements du homard contre la paroi. Ou encore les pinces de la créature raclant la marmite. En d'autres termes, le homard se comporte pas mal comme vous et moi si nous étions plongés dans de l'eau bouillante. C'est ce que notait en 2003 déjà un écrivain américain qui s'appelle David Foster Wallace. Si ce projet de loi a été accueilli avec satisfaction chez les défenseurs de la cause animale, ce n'est pas le cas chez tous les restaurateurs. Comme option à l'ébouillantage, le rapport scientifique de la London School of Economics préconise. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place ? Qu'est-ce qu'on fait à la place ? Une fois qu'on a dit qu'on ne peut plus cuire les crustacés comme ça. C'est parce que dans le chat, j'ai vu certains. Oui, mais les homards, il y a à peine 1% du chat qu'on a mangé. Ce débat de riches. Non, ça concerne aussi les tourteaux, les dormeurs, les araignées, qui sont des crustacés beaucoup moins chers. Hein. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors. Le rapport scientifique de la London School of Economics préconise l'électrocution des crabes et des homards, jugés moins douloureux, mais qui implique l'utilisation d'équipements extrêmement onéreux. Près de 4000 euros pour une machine qui s'appelle Crustaston, ce qui augmenterait nécessairement le prix de vente de ces produits. Waouh. Une solution qui ne satisfait pas James Cavarini, propriétaire de restaurant à Londres. Aucun restaurateur va dépenser 4000 euros pour électrocuter des homards, dit-il. Je ne vois pas comment le gouvernement va faire appliquer ça, à moins de mettre des policiers dans ma cuisine, dans toutes les cuisines du pays. Au restaurant Otto's, établissement gastronomique situé à Londres, le chef utilise une autre méthode de mise à mort, couper l'animal en deux. Ça, je l'ai vu aussi, ça. C'est une autre méthode. À l'aide d'un couteau pour détruire d'un seul coup son système nerveux réparti sur 13 ganglions le long du corps avant de le cuire. Ce geste ne doit pas durer plus de quelques secondes, précise-t-il. C'est l'une des seules façons d'éviter toute souffrance potentielle et au final, la chair du homard sera plus tendre. Tout au long de l'année, sauf lorsque les conditions météorologiques ne sont pas réunies, Otto Tepas reçoit au moins 25 homards par semaine. Au-delà du homard, le programme du gouvernement britannique en faveur du bien-être animal vise large. Nouvelle norme d'ailleurs pour la mise à mort sans cruauté des animaux, des poissons d'élevage. D'accord. Interdiction de l'élevage intensif des chiots ou encore fin des cages pour les poules et les truies. Voilà. Donc, s'il y a des crustacés dans le chat, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour vous. En tout cas, si vous vivez en Angleterre. Et bravo les British, me dit Pips Plouf. Ils sont bien, ces Anglais, quand même. Avec un pic, tu plantes dans la tête, comme avec les poissons. En plus, ça permet d'avoir aucune sécrétion de toxines due au stress, donc c'est meilleur, me dit le Squeer. Ne sous-estimez pas les homards, un jour ils se vengeront, me dit Cusaria. 70 à 80% des gens percent déjà le cerveau avant ébullition. Dans ma famille, on utilise un pic pointu juste avant, on perce, et après, dans l'eau. Et les crevettes et les langoustines?
Ben, je sais pas comment, j'avoue. Ouais.
Comment tu perces la tête de chaque crevette, quoi? La chevrotine, dit Pigeon. La chevrotine. T'imagines? Le problème, c'est d'enlever les petits plombs après. Je vous lis, hein. Chez moi, on... Chez elle qui dit, chez nous, avant de faire que le homard, on fait venir un prêtre et il a le droit à une clope avant. Oui, à la stère, à la tronçonneuse, oui, ok, d'accord. Ok. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les homards, en vrai, hein. En vrai. Salut Chambon. Bah oui, hein. Est-ce qu'il me reste une bonne nouvelle? Eh oui, c'est la dernière actualité. Lève pas la main comme ça, Samuel. C'est la dernière actualité dans cette revue de presse des bonnes nouvelles. Voilà. Une histoire de volet. Ou comment un dessin animé a pu avoir une influence décisive sur le nombre de licenciés. Garçon, fille, dans le volley français. Je veux parler de Jeanne et Serge. Je trouve que l'histoire est trop mignonne. C'est dans l'équipe cette semaine. Jeanne et Serge, un succès de première main. Je ne savais pas que ce dessin animé, cet animé, avait à ce point influencé plein de jeunes Français et Françaises à s'inscrire en volley et pour certains devenir plus tard des champions. Voilà. La bleue, c'était la méchante, me dit Gamet. Ça rappelle des souvenirs. Un succès de première main. La série animée mythique de la fin des années 80 a fait exploser le nombre de licenciés à la Fédération française de volley-ball, au point d'être considérée comme l'un des fondements de la place actuelle de la discipline en France. Jeanne et Serge, coup de foudre au match de volley-ball, Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Bon, pardon, j'ai pas la rêve, j'ai pas trop regardé les dessins animés, j'étais trop vieux. Hein. Bon, nous, on n'avait pas la télé, nous. Pour tous les amateurs de volley, même au-delà, ces paroles reviennent dès l'écoute des premières notes du générique de Jeanne et Serge. Générique obligé, obligé, générique, générique. Je ne connais pas, moi. Jeanne et Serge.
Dans l'équipe, il y a maintenant une jeune fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent et son cœur est bondissant. Le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup et pour elle.
Pardon, le dessin animé était mieux que la chanson? Pas parce que. Alors, excusez-moi, je ne le juge pas, hein, mais le. Ok, d'accord. Bon, je connaissais pas. Bon. Jeanne au secours. Ça vient de ce dessin animé ou pas? En tout cas,
Bon, pas hypé par la chanson, mais il paraît que le dessin animé était vraiment cool. Alors, que dit l'article de l'équipe ? 38 ans après sa première diffusion en France, il y a quelqu'un qui vient de me répondre dans le chat, mais non, Samuel, ça vient de Jean-Marie Le Pen. Ah bon ? Oh. Merci beaucoup. Ah bon ? J'étais persuadé que ça venait de là. Merci beaucoup de cette précision. 38 ans après sa première diffusion en France, la série est restée dans les mémoires d'un paquet de générations de téléspectateurs, au point de se faire une place dans des situations inattendues. Président de la Fédération Française de Volleyball, Éric Tanguy reste encore marqué par les obsèques de Jean-Paul Duby, ancien vice-président de la Fédération, décédé l'an dernier à 68 ans, peu avant les JO. Il m'avait demandé que la sortie du cercueil se fasse sur la musique du générique. Incroyable. Sa fille nous avait prévenu qu'on reconnaîtrait l'esprit de son papa, mais on ne s'y attendait pas. C'est un monsieur de 68 ans. Ah, il est parti très jeune. Et à ses obsèques, il y avait cette chanson incroyable, très belle, hein, dont je vous parlais à l'instant. C'est une belle histoire qui démontre l'importance de la série. Avec Olive et Tom, Jeanne et Serge, ils ont toute la série animée sportive la plus mythique de la télévision française, diffusée pour la première fois en 87. Ah ouais, mais moi j'ai commencé à arrêter de regarder la télé à cet âge-là, moi. 87, j'avais 16 ans. Et oui, je m'intéressais à d'autres choses à l'époque. Et oui. Alors ça raconte quoi ? Les aventures de Jeanne, jeune ado qui déménage à Tokyo et entre dans un nouveau lycée, extraverti et casse-cou, donc c'est Jeanne, hein, je crois. L'héroïne défie l'autorité, n'a pas peur de s'en prendre aux hommes qu'elle ridiculise régulièrement. C'est un peu féministe, du coup. Dans le viseur de l'entraîneur de l'équipe féminine de volleyball pour ses qualités athlétiques hors normes, elle s'y engage pour se rapprocher de Serge, capitaine de l'équipe masculine dont elle tombe amoureuse dès le premier épisode. Cette trame romantique accompagne la progression sportive fulgurante de Jeanne, qui, au fil des 58 épisodes, franchit tous les paliers jusqu'à l'équipe nationale olympique des Jeux de Séoul. Ah ouais, quand même ! D'accord. Comme toutes les séries animées japonaises, Jeanne et Serge est issue d'un manga d'ailleurs, en l'occurrence Attacker You de Jun Makimura et Shizuo Koizumi, dont les trois tomes sont publiés au milieu des années 80. C'était un manga.
Ok.
Ah, à noter qu'en France, les téléspectateurs n'ont pas eu le droit à la version japonaise. Certaines scènes violentes à l'entraînement où le coach, monsieur Damon, giflait ou frappait à coups de bâton certaines joueuses ont disparu des versions européennes. Ah, ok. Ok. Je vous invite à aller voir une des vidéos de JDG, me dit Gel59, qui paraît être animée entre filles battues par l'entraîneur, mère qui abandonne ses enfants, etc. Alors, a priori, en France, on n'avait pas tout à fait la même version.
Ok.
Et d'ailleurs, l'anime a eu beaucoup plus de succès en France qu'au Japon. Et, c'est ça qui m'intéressait, son impact sur la pratique de la discipline de volleyball dans l'Hexagone est démesuré. De 71 000 licenciés en 86-87, la Fédération française de volley grimpe à 97 000. Donc vous avez 26 000 licenciés de plus dont on se dit que c'est sans doute lié à ce dessin animé. C'est incroyable. On est sur du 25-30% de plus, quoi. La tendance est surtout visible chez les filles, dans les catégories Benjamin, Poussin, Pupille. En 3 ans, le nombre de jeunes joueuses ne fait plus que quadrupler. De quoi réduire l'écart entre le nombre de licenciés hommes et femmes. C'est génial. Comme beaucoup de sports face à l'afflux licencié après les Jeux de Paris, par exemple, de nombreux clubs se sont à l'époque retrouvés débordés par ce déferlement inattendu de jeunes gens qui voulaient jouer au volley, quoi. Faute d'infrastructures ou d'encadrants en nombre suffisant. C'est génial. C'est drôle. Si le rôle joué par la série dans le développement du volley français à plus long terme est difficile à évaluer, le dirigeant l'estime majeur, Jeanne et Serge, a une longévité exceptionnelle. Ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. C'est quelque chose qui a changé le volleyball. Aujourd'hui, vous avez 250 000 licenciés de volley en France, ce qui est beaucoup. Hein. L'équipe de France masculine est double championne olympique en titre. L'équipe de France féminine a fait son grand retour au championnat du monde en août dernier. Il y a donc eu un avant et après Jeanne et Serge en France. Génial. De l'importance. De, c'est fou, hein, de l'impact d'un dessin animé, d'un manga à la base, et d'un animé sur la société. C'est vachement intéressant. Et Goldorak, par exemple. Et Goldorak. Qu'est-ce qu'il a produit, Goldorak ? Et Goldorak ? Et quel le survivant ? Je pose la question, je vous ouvre le débat. Qu'est-ce qu'il a produit ? On ne sait pas. Elon Musk, me dit Mr. Jingle. Il n'y a pas de Bumblebee sans Goldorak ? Ah, intéressant, Sugar, ouais. Gouillac, grâce à quel le survivant je tabasse des mecs dans les rues au hasard, ça détend. Ok. Ok. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas eu de dessin animé sur les lanceurs de javelot expliquerait le manque d'intérêt pour la discipline? Ça a peut-être provoqué les astronautes, ouais. Merci, Kajena. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, nous venons d'assister à la première matinée, et bah non, c'est pas une matinée, c'est un après-midi, à la première revue de presse en 5 ans de Twitch, entièrement, uniquement consacrée à des nouvelles positives. Voilà. Vous n'en pouvez plus des mauvaises nouvelles que je vous rapporte chaque matin depuis 5 ans. Eh bien voilà, tous les samedis après-midi, je vous donne rendez-vous de façon chill, 14-17h le samedi, pour passer en revue des infos un peu positives. Mais rassurez-vous, hein, bien sûr, Dès lundi, on va reprendre les mauvaises nouvelles, les guerres, les drames, les catastrophes, les crises, pour ceux qui sont un petit peu en manque de tout ça. Je suis avec beaucoup d'attention sur ce qui se passe au Venezuela. Il est évident qu'on en parlera longuement lundi. Il y a même un monde où je devrais même vous proposer une revue de presse demain, mais demain dimanche, je me serais un peu abusé. La famille va crier un petit peu et elle aura raison. Merci beaucoup pour ce samedi. Merci à ceux qui nous écoutent en live sur Twitch. Merci à ceux qui nous écoutent en replay sur YouTube. Merci à ceux qui nous écoutent en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast audio. Vous êtes super nombreux, ça me fait super plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau week-end. Normalement, Vincent devrait mettre cette revue de presse enregistrée ce samedi après-midi en podcast audio. Là, je pense en début de soirée, je pense qu'il va faire ça. Normalement, c'est 15-16h pour celle du matin. Donc, je pense avec le décalage, ça va être en début de soirée. À moins qu'il la mette demain matin, dimanche. Vous voulez que je vous dise ? Attends, il m'en a parlé, Vincent. Attends, je vais vous dire ça. Il m'a dit, quelqu'un très rigoureux qui bosse super bien. Qu'est-ce qu'il a dit, Vincent ? Dimanche matin. Je te propose de programmer ça pour que ça sorte dimanche matin pour accompagner les gens qui vont sortir courir après leur bonne résolution 2026. Il est génial. Cran Montana, on en reparlera lundi, bien sûr. Ouais, je sais. Mais on en a déjà parlé, écrivain, tu sais, vendredi. Hein. Bien sûr. Allez, on fait un raid. Qui est en live ? Ouais. Elidia est encore en live. Elle était en live hier soir, mais elle est en live depuis hier soir. C'est fou. Je vois plein de propositions. Alors, Lydia, je l'ai déjà raid hier soir, Cusaria, donc je ne vais pas la raid deux jours de suite. Mais vous savez que je serai toujours là pour la soutenir. Je regarde qui est en live parmi tous les amis. Et ils sont nombreux. Qui on a ? Oh, il y a du monde, hein. Je l'ai raid aussi il y a quelques jours. Antoine Daniel est en live aussi. Ouais, mais Antoine, je l'ai en raid il n'y a pas longtemps non plus. Ouais, j'essaie de changer un petit peu. Il est sur quoi, Antoine? Il est sur un truc sympa, là, en plus. Waouh, c'est pas mal, en vrai. En vrai, alors Antoine, je l'ai raid il n'y a pas longtemps, mais là, Antoine, il est sur un thème qui est super, en vrai. Suite et fin de la tier list des jeux qu'on a fait sur la chaîne depuis le début. Et live chez Rayou ce soir. Vachement intéressant. Hein. Ça a l'air super. Mais on...
Je regarde un petit peu tout le monde.
Je suis dans les temps, j'avais dit 16h30. Il faut peut-être pas faire des raids que vers les amis. Quand je dis les amis, c'est les gens que je follow. Hein. Après, je pourrais aussi faire des raids vers les gens qui me détestent. Mais c'est assez souvent assez mal perçu, quoi. Ça m'est arrivé une fois en 5 ans. J'ai voulu raid quelqu'un dont j'estimais le travail, mais je ne savais pas à quel point cette personne n'aimait pas ce que je faisais et sa communauté. Et ça a provoqué un moment très gênant. Donc j'évite maintenant. Ça a provoqué un moment très gênant où en fait la personne a littéralement rejeté le raid, quoi, en disant ah bah non hein. Donc je fais un peu attention maintenant. Donc quand je dis je raid les amis, j'essaie de raid des gens qui vont pas être gênés, quoi. C'était qui? Oh, ah ouais, c'était très gênant. Ça m'est arrivé une fois. Je fais à peu près, je fais 300 streams par an en 5 ans en 1500 raids, tu vois. Donc c'est vraiment c'est arrivé qu'une fois, mais waouh, c'est traumatisant. Certains s'en rappellent peut-être d'ailleurs. On peut voir qui? Sur quoi là? Mais ouais, écoutez, mais allons donner la force à quelqu'un qui a 7 viewers actuellement, que j'ai déjà raid, que je follow déjà, qui s'appelle Chaque Hasard et qui a l'air sur un jeu hyper intéressant. Ouais. Ouais. Donnons un petit peu de force à notre ami. Je vous souhaite un super week-end, un bon début d'année, un bon samedi. On se retrouve peut-être ce soir, si j'arrive à me faufiler tel un ninja hors du domicile familial pour faire du God of War. J'adore ce jeu. Ou demain, dimanche soir ou plus tard. Voilà, je fais au plus vite. Voilà. On va raid donc Chaque Hasard. Je charge tout ça. Je vous laisse en de bonnes mains et je vous retrouve au plus vite. Au plus tard demain soir, mais je vais essayer ce soir. Je me suis fait un peu engueuler... Après mon stream de 7h30 hier soir qui a terminé à 5h30 du matin. Des bisous. Prenez soin de vous. Je reviens dès que je peux. Ciao. Ça part dans 3, 2, 1. Let's go.